Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1.
Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline. Ce soir sur Europe 1 et sur CNews, comment lutter contre l'arrivée du nouveau variant Omicron qui menace de bouleverser la donne en France. 13 cas suspects ont été détectés sur notre territoire. On attend les résultats du séquençage pour voir s'il s'agit bien de ce variant. Pour l'heure, le gouvernement français écarte toujours l'idée de la vaccination obligatoire, suggérée fortement par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. On entendra la réponse du ministre de la Santé, Olivier Véran. En tout cas, l'engouement des Français pour la dose de rappel ne faiblit pas. Les files d'attente s'allongent devant les centres de vaccination. Plus de 612 000 personnes ont pris rendez-vous sur la seule journée d'hier. Depuis les annonces d'Olivier Véran, près de 4,5 millions de Français ont tenté de prendre des rendez-vous pour cette troisième dose. En politique, les Républicains votent depuis ce matin pour désigner leur candidat ou leur candidate. Une petite indication, le taux de participation qui s'élevait à 24,5% à la mi-journée. Le corps électoral est donc de 148 000 militants LR encartés. Et puis il y a aussi la candidature d'Éric Zemmour qui provoque toujours des remous, notamment après son interview aux 20h de TF1. Le désormais candidat s'est plaint des questions qui lui ont été posées par le présentateur Gilles Boulot. On verra que la mue de l'ancien journaliste en politique a du mal à s'opérer. Par ailleurs, le meeting politique qui devait se tenir dimanche soir dans la salle parisienne du Zénith a été déplacé à Villepinte pour pouvoir accueillir plus de spectateurs. 20 000 d'entre eux sont donc attendus. Le déplacement de Marlène Schiappa à Calais pour aller à la rencontre des migrants qui sont candidats à la traversée pour l'Angleterre au péril de leur vie. Que s'est-il passé exactement lors du naufrage de l'embarcation qui a coûté la vie à 27 migrants le 24 novembre dernier? Parmi eux, 17 hommes, 7 femmes, 2 adolescents et 1 enfant. L'un des rescapés kurdes raconte une nuit de cauchemar. Il affirme que les Britanniques et les Français se sont renvoyés la balle pendant toute la nuit du naufrage. On essayera de comprendre ce qui s'est passé. Enfin, au chapitre de l'insécurité, on reviendra sur cette scène hallucinante de tirs de mortiers d'artifice au cœur même d'un lycée, le lycée Jean Rostand de Mantes-la-Jolie, où l'on voit des élèves s'amuser à tirer dans les couloirs de l'établissement, tout cela diffusé bien sûr sur les réseaux sociaux. Le personnel enseignant a fait valoir son droit de retrait. Il appelle à l'aide pour lutter contre les violences quotidiennes dans ce lycée difficile. On entendra le témoignage d'une professeure qui raconte les départs de feu quasi quotidiens dans cet établissement. On évoque ces sujets d'actualité ce soir avec Jean-Claude Dacier qui est là. Bonsoir, consultant CNews.
Bonsoir.
Alexandre Devecchio, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste et rédacteur en chef adjoint au Figaro. Jean Garrigue, président du comité d'histoire parlementaire.
Bonsoir.
Bonsoir. Et Thibault de Montbrial est là, avocat. Bonsoir. Président du Centre de réflexion sur la sécurité intérieure. Allez, avant d'évoquer tous ces sujets, d'abord le Covid. On revient sur les annonces de Gabriel Attal à propos de l'ouverture de 300 nouveaux centres de vaccination et puis aussi la progression du variant Omicron.
Hier, avant-hier, nous avons eu un record de commandes de doses de vaccins par les professionnels de santé libéraux, ce qui montre bien qu'il va y avoir une augmentation des injections dans les jours et dans les semaines qui viennent. Deuxième chose, nous rouvrons des centres de vaccination. Olivier Véran avait annoncé la semaine dernière que nous avions l'objectif d'en rouvrir 300. Il y en avait 1100 au moment où il s'est exprimé. Il avait annoncé la volonté d'en rouvrir 300. Il me semble qu'hier, il y a déjà une cinquantaine qui avaient pu rouvrir et les autres rouvriront évidemment dans les jours et dans les semaines qui viennent. À l'heure à laquelle je vous parle, il y a 13 cas suspects du variant Omicron sur notre territoire. Ce sont des cas suspects, c'est-à-dire pour lesquels un criblage a laissé penser qu'il y avait une possibilité de variant Omicron. Il y a déjà eu des cas suspects depuis la semaine dernière qui se sont révélés négatifs au variant Omicron. Mais évidemment, tous ces cas sont en train d'être séquencés. Ne soyons donc ni dupes ni naïfs. Il y aura très probablement des cas sur notre territoire dans les prochaines heures ou les prochains jours qui seront détectés.
Voilà, on débat de tous ces sujets d'actualité ce soir dans Punchline. C'est parti.
Europe 1, Punchline. Laurence Ferrari.
Et il est 18h, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1 et sur CNews. On évoque le Covid avec cette question de la vaccination obligatoire qui se pose. La présidente de la Commission européenne, Madame von der Leyen, est favorable à une discussion sur ce thème de la vaccination obligatoire. Écoutez, la réponse très claire d'Olivier Véran, ministre de la Santé.
L'obligation vaccinale n'est pas le choix que la France a fait, pour différentes raisons. D'abord, qu'allons-nous dire à une personne âgée chez elle qui ne s'est pas fait vacciner? Est-ce qu'on va mettre un régime d'amende? Qui dit obligation dit contrôle et sanctions. Donc la faisabilité n'est pas évidente. Nous avons fait le choix, nous, du pass sanitaire, qui a été un incitatif puissant, et nous faisons le choix de multiplier toutes les opérations d'aller vers. Cette semaine, c'est 52 millions de Français qui ont reçu une première injection. c'est-à-dire plus de 90% de la population vaccinable qui est vaccinée. Bien sûr, je souhaite ardemment que ceux qui n'ont pas encore fait cette démarche de se faire vacciner le fassent, et sans obligation, si possible, évidemment, mais avec des incitations qui sont très fortes.
Voilà pour Olivier Véran. Thibault de Montbrial, ce serait une erreur d'aller vers la vaccination obligatoire alors qu'on voit les Français se ruer sur les centres de vaccination?
Je pense qu'il y a aussi un problème politique, c'est-à-dire que le problème sanitaire, me semble-t-il, est à peu près bien pris en compte par le puissant incitateur, pour reprendre les termes du ministre, que constitue le pass sanitaire. Il y a une fronde qui est ultra minoritaire, mais qui est violente, contre le vaccin, contre le pass, etc. Je pense que si on passait à un régime de contraintes, ça générerait des problématiques de sécurité successives. Ça n'a pas de sens de mettre en place une obligation si on ne peut pas la contrôler et la sanctionner. Il l'a dit, il a raison. Donc il vaut mieux... Je pense que le système actuel est bon. J'insiste quand même pour dire que dans les pays européens, j'ai regardé un petit peu, le système se durcit de jour en jour, qu'il y a des passes sanitaires maintenant d'où sont exclus les gens qui ont simplement un test PCR négatif. Il y a des pays qui maintenant ne rendent éligibles aux passes sanitaires que les gens qui sont vaccinés. Donc il y a encore des vecteurs de durcissement si c'était nécessaire. Mais enfin, voilà, je pense que l'équilibre du pass sanitaire est un bon équilibre entre la préservation de la santé et le maintien de l'activité économique.
Et la préservation des libertés aussi, Jean-Paul Dacier.
Bien sûr. Et on exige, avant les libertés, on exige aussi un test négatif, évidemment, pour ceux qui sont hors communauté européenne, qui arrivent d'on ne sait où. Il va falloir qu'ils produisent. Bien sûr, encore heureux. Bon, moi, je ne suis pas inquiet à propos des libertés. Je ne l'ai jamais été parce que je ne vois pas... Où est la privatisation de liberté lorsqu'on retire sa chemise et qu'on se fait faire une piqûre, voire deux, en 15 jours? J'observe qu'il y a quand même de plus en plus de monde et qui mesure le risque, et qui se sont un peu inquiétés avec l'arrivée de ce nouveau variant, et qu'on se précipite pour avoir cette troisième dose. C'est vrai que, bon, on espérait que la double dose suffirait. Il faut accepter l'idée qu'on est dans un monde viral qui est compliqué. Et encore une fois,
un monde viral, j'aime bien l'idée.
Oui, c'est compliqué, les virus respiratoires. Tous les infectiologues vous diront qu'ils ne savent pas trop comment, au début, les traiter. Mmh. Au jour d'aujourd'hui, on enregistrerait une explosion du nombre de cas positifs, 35, okay. 45 il y a un, mais j'ai noté le chiffre, il y a moins de 2000 personnes dans des situations très risquées à l'hôpital, comme on dit, en soins de réanimation. Espérons et pourvu que ça dure.
Un mot juste, je pense que le gouvernement s'est un peu avancé avec la date du 15 janvier. Pour la troisième injection obligatoire sur le pass sanitaire. Je ne suis pas sûr que tout le monde, même les gens qui le souhaitent évidemment, mais que tout le monde puisse bénéficier de cette troisième dose au 15 janvier. Et il pourrait y avoir peut-être un débat sur la nécessité de reculer cette date. C'est la seule interrogation que j'ai sur...
En raison de cet afflux. Engouement, cet afflux. Ouais. Justement, on va rejoindre Barbara Durand qui est avec Fabrice Elsner devant un centre de vaccination où visiblement il y a énormément de monde, Barbara.
Oui, effectivement. Regardez sur les images de Fabrice Elsner. Il y a du monde, beaucoup de monde ici au centre de vaccination de Courbevoie. Et c'est comme ça depuis 8h30 ce matin pour vous dire. Ici, il y a 3000 créneaux, et bien tous pris rien que pour aujourd'hui. L'affluence risque de continuer dans les centres de vaccination puisqu'ils sont très nombreux à avoir fermé ces dernières semaines. Faute d'affluence, celui-ci jusqu'à la semaine dernière était ouvert en demi-journée. Depuis le début de la semaine, il est ouvert de 8h30 à 19h30, sans arrêt. Pour vous donner une idée, encore rien qu'hier, plus de 600 000 rendez-vous ont été pris sur la plateforme Doctolib. Depuis le 25 novembre dernier, 4,5 millions de Français ont pris rendez-vous pour leur troisième dose.
Jean Garrigue, vous en faites partie.
Un témoignage de terrain. Pour vous dire qu'effectivement, le 15 janvier me paraît prématuré.
Un peu juste. Oui. Parce qu'il y a énormément... Votre dose, elle est prévue quand ?
Moi, c'est fin décembre, mais j'en connais qui n'ont pas encore de rendez-vous prévu avant le mois de février. Ah oui. C'est vous dire. Donc le 15 janvier me paraît un peu tôt. Pour le reste, il y a toute une population. Je ne parle pas des anti-vax de conviction ou même d'opportunisme politique, mais ou ceux qui pensent que tout ça est liberticide. Mais je pense qu'il y a toute une population population qui est réticente, qui a peur, qui est isolée, mm-hmm. et ce serait difficile d'obliger okay. ces gens-là à être vaccinés.
D'accord. Un dernier mot là-dessus,
non,
Alexandre
mais
ne Jean-Claude.
Faisons pas croire que ces gens-là sont la cause si l'épidémie reprend. Ça circule avec le vaccin, on est vacciné à 90%, donc espérons qu'avec la troisième dose, ça fonctionne et que le variant ne soit pas résistant. Si c'est résistant, voilà, il faudra s'interroger sur la stratégie du tout vaccinal et sur le fait que les hôpitaux, on n'a toujours pas, je le répète à chaque fois, mais on n'a toujours pas renforcé notre système hospitalier depuis trois ans de crise, c'est quand même un problème.
Et les soignants nous le disent tous les jours. Un dernier mot, Jean-Claude.
Juste un dernier mot, ajouter que ce vaccin, que ce virus Omicron ne semble pas inquiéter, outre mesure, le monde des affaires.
Ah oui, vous allez nous ressortir la bourse de
c'est
Paris.
Pas que vous le ressort. Ce n'est pas rien. C'est que la bourse aujourd'hui gagne plus de 2%, que le pétrole baisse et que l'inflation repart.
La bourse n'a pas rattrapé la chute de vendredi dernier.
Oui, mais ça a un sens. Ça a un sens. Ça veut simplement dire qu'il y a un optimisme que nous n'avions pas hier ou avant-hier sur l'efficacité des vaccins face à ce virus mutant.
Allez, on suivra évidemment le dossier Covid comme on le fait depuis des mois et des mois. J'aimerais qu'on parle de la violence, notamment dans les établissements scolaires. C'est un véritable sujet qui a longtemps été sous-estimé, mais qui vraiment nous saute au visage. Là, on va parler de ce qui s'est passé à Mantes-la-Jolie. Les enseignants du lycée Jean Rostand ont exercé leur droit de retrait hier. Ils sont excédés, ils n'en peuvent plus, ils ont peur aussi, je pense, par les scènes de violence qui se déroulent chaque jour dans leur établissement, des tirs de mortier d'artifice dans les couloirs, des départs d'incendie dans l'établissement, des agressions. Écoutez ce sujet de Marine Sabourin, on en débat ensuite.
Tirs de mortier d'artifice, incendie volontaire. Depuis plusieurs jours, le lycée Jean Rostand à Mantes-la-Jolie fait face à de multiples incidents à l'intérieur même du bâtiment. Des événements graves, mais prévisibles, selon ce professeur Philippe Cuvier.
On le voyait venir, hein, il y avait des coups de pied dans les portes des salles régulièrement, et puis là, bon, ça a été crescendo, quoi. C'est le résultat d'une politique de laxisme depuis 30 ou 40 ans, à mon avis, dans les banlieues, c'est comme ça. Bon, il faut donner des moyens, quoi, de faire les choses, autrement on tricote, on répare, on met des pansements par-ci, un petit brin de velcro par-là, mais ça n'aboutit pas, quoi.
Face à cette situation, les enseignants font valoir leur droit de retrait. Ce matin, seuls les élèves en apprentissage étaient autorisés à rejoindre leurs cours. Le personnel demande une remise en état des équipements de sécurité, de nouveaux postes d'assistants d'éducation, ainsi que le statut de REP+, octroyé aux zones qui connaissent les plus grandes concentrations de difficultés sociales.
Merci pour ces explications, Marine Sabourin. Thibault de Montbrial, on parle de tirs de mortier d'artifice dans l'enceinte du lycée. Là.
Oui, mais la situation, il n'y avait aucune raison que les établissements scolaires demeurent des sanctuaires par rapport à la violence physique qui, encore une fois, galope en France. Il y a une augmentation considérable des faits de violence et de leur gravité qui touche aussi beaucoup, on en parle régulièrement, mais je le redis, les forces de l'ordre avec encore plusieurs agressions cette semaine terrible. Il y a cette affaire dramatique. À Beauvais, il y a un lycée professionnel dans lequel il y a eu trois agressions très graves en six jours, avec hier un professeur d'éducation physique qui a été rossé par un élève qui lui demandait d'enlever sa casquette. Donc la situation est en train d'échapper au contrôle et il n'y avait vraiment aucune raison ces jeunes hyper violents ensauvagés se mettent à bien se tenir face au dernier rempart de l'autorité auquel ils sont confrontés, parce que c'est ça, l'école, l'établissement scolaire, c'est le dernier endroit où ils ont un minimum d'autorité qui tente
là, les pompiers
de
sont intervenus, la police municipale est intervenue, la police nationale est intervenue et les professeurs, mais ils disent, voilà, résultat de 30 ans de laxisme. C'est ce qu'a dit ce professeur. Jean Garry, qui est enseignant.
J'ai enseigné pas très longtemps dans le secondaire, avant d'aller à l'université. Mais l'acte de violence à cette époque-là, ça aurait été deux gamins, deux lycéens qui se seraient pris un peu la tête et peut-être donné un petit coup de poing dans les couloirs. C'était tout juste ce qu'on pouvait supporter. Ça aurait été impensable d'avoir ce type de comportement et encore plus d'avoir des élèves qui s'en prennent à des enseignants. Donc il y a eu effectivement une dérive terrible. C'est quelque chose maintenant qu'on ne peut plus, sur lequel on ne peut plus fermer les yeux. Et c'est d'ailleurs très symptomatique de voir la réaction de cet enseignant, parce que les enseignants ont souvent été les premiers, corporativement et même pour des raisons idéologiques, à fermer un petit peu les yeux sur ces violences, à trouver des excuses sociales.
C'est plus le cas, là. Ils sont excédés, là.
Ils en ont marre, ils ne se sentent pas suffisamment protégés par leur hiérarchie, quelquefois par les chefs d'établissement, quelquefois par le ministère et par les recteurs d'académie. Donc il y a quelque chose là, il faut trouver des solutions, il faut être beaucoup plus ferme, parce que ça ne peut plus durer. Mais effectivement, ça n'est jamais que le reflet de ce qui se passe dans
à l'extérieur des murs des enceintes scolaires.
Oui, moi je crois que c'est une faillite,
Alexandre Devecchio du Figaro.
Une faillite de l'institution qui a sapé effectivement depuis des années sa propre autorité, un peu à la base avec certains professeurs qui avaient peut-être une idéologie socialisante, qui pensait que effectivement la violence s'expliquait par les difficultés sociales et qui était un peu laxiste là-dessus, mais je pense pas la majorité à la base, mais surtout une hiérarchie qui était dans la culture du pas de vague. Ça a été dénoncé par un certain nombre de professeurs et qui préféraient taire ce genre d'incident plutôt que de les dénoncer et soutenir le corps enseignant. Et effectivement, c'est toujours le cas, et quand le corps enseignant n'est pas soutenu par sa hiérarchie, eh bien, les délinquants, parce qu'il faut appeler ça comme ça, le sentent, en fait, sentent qu'il n'y a pas d'autorité et vont dans les failles, finalement, du système. Donc oui, on paye 30 ans de laxisme et de lâcheté l'État sur cette question.
Thibault de Montréal.
Deux points. D'abord, ça touche des établissements scolaires dans tous les quartiers, puisqu'au lycée Montaigne,
qui est
un lycée parisien bien connu, il y a eu des faits très graves il y a quelques jours. Et par ailleurs, pour revenir sur les images qu'on vient de voir et sur le cas dont on parlait en début de...
Les images de tirs de mortier dans les couloirs.
Là, quand même, parce que les autres cas, je ne dis pas que c'est moins grave, c'est terrible par ailleurs, des professeurs qui sont agressés, etc.
Absolument.
Mais là, c'est du matériel qui peut mettre le feu, qui peut tuer, qui est
introduit. Qui met en danger les autres élèves.
Et avec une mise en danger de tout le monde, des élèves, des professeurs, etc. Et une fuite en avant... dont je le dis, moi je suis souvent un peu le Cassandre, j'ai écrit sur ces sujets, j'ai annoncé beaucoup de choses. Malheureusement, depuis quelques années, tout ce sur quoi je me regarde arrive. Mmh. Et je crains que la compétition entre le premier mort policier et le premier mort enseignant soit lancé par ce genre d'acte.
C'est terrible.
Le
premier mort enseignant, il y a eu Samuel Paty.
C'était du
terrorisme. On est bien d'accord.
Mais symboliquement,
je ne parle pas d'un attentat de terroriste. Je parle de la violence intrinsèque des élèves.
On fait une toute petite pause. Je passe la parole dans un instant, Jean-Claude Dacier. On écoutera un autre témoignage d'une enseignante de ce lycée de Mantes-la-Ville qui raconte que tous les jours, il y a des départs de feu, il y a des tirs de mortier, il y a tous les jours dans cet établissement des incidents. À tout de suite.
Europe 1. Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1.
On se retrouve en direct sur Europe 1 et sur CNews dans Punchline. On évoque ces agressions quotidiennes quasiment au lycée Jean Rostand de Mantes-la-Jolie. Les professeurs ont exercé hier leur droit de retrait. Ils appellent à l'aide, ils demandent à ce que l'éducation nationale les soutienne à lutter contre les violences quotidiennes. Écoutez le témoignage d'une enseignante, Diana Badiop, professeure recueillie par Florian Paume.
Depuis vendredi dernier, nous avons eu des départs de feu dans l'établissement, des départs volontaires. Nous avons eu l'incendie d'un véhicule pédagogique au sein de notre établissement et puis aussi des tirs de mortier dans les couloirs. Et puis, nous avons eu une défection des matériels de sécurité, c'est-à-dire que les extincteurs qui doivent nous permettre d'éteindre ces départs d'incendie étaient défectueux. Donc, ça va crescendo, mais moi, ça fait 20 ans que je suis dans cet établissement et c'est la première fois que nous avons une succession aussi rapide d'incidents graves et surtout des départs de feu volontaires. Tout ceci est anxiogène. Nous avons eu plusieurs collègues qui ont fait des crises d'angoisse. On a récupéré des élèves en pleurs. Et donc, nous, on dit, ça suffit. Nous sommes dans l'école de la République. Il faut nous donner les moyens d'enseigner et d'être en sécurité dans notre établissement. Nous sommes tous excédés, fatigués, enseignants comme élèves. Et nous avons donc décidé de cesser notre activité parce qu'on ne se sentait plus en sécurité au sein de l'établissement.
C'est un témoignage très fort. Combien de temps l'éducation nationale va laisser ses professeurs désarmés face à cette violence, Thibault de Montbrial?
C'est glaçant. Je pense que c'est un peu réducteur de circonscrire la responsabilité à l'éducation nationale. L'éducation nationale est complètement submergée. L'éducation nationale hérite de la génération qui est dans ces établissements, de cette population, et là je pense vraiment aux gens dont elle parle, qui sont d'ailleurs souvent les mêmes que ceux qui lynchent en bande organisée et qui commettent des violences absolument inouïes. Et moi, ce qui me frappe beaucoup dans ce que raconte cette enseignante, c'est qu'on a les mêmes conséquences implicites que dans les faits de violence en bande, soit entre bandes, soit sur des individus isolés, soit contre les forces de sécurité, c'est que l'hypothèse homicide n'est plus du tout un problème. C'est-à-dire que ce qu'elle décrit, ça ne tue pas, tant mieux, mais ça peut tuer. Et un jour, ça va tuer. Et ceux qui s'y livrent sont totalement indifférents aux résultats qu'ils peuvent obtenir. Et ça, c'est vraiment nouveau. Des violences, des jeunes turbulents, puis des violences, etc. Il y en a eu, vous en parliez. Mais c'était des violences qui avaient une limite. Là, c'est une violence qui n'a plus de limite. Et ce qu'elle dit sur l'augmentation, la vitesse de propagation de ces faits et leur augmentation en nombre et en intensité, c'est la même chose dans tous les domaines. Les clignotants sont au rouge écarlate, et pas simplement dans les établissements scolaires, mais évidemment aussi dans les établissements scolaires.
Jean Garrigue.
Oui, moi je suis entièrement d'accord avec ce que dit Thibault de Montbrial. Ce serait trop facile de reporter la responsabilité sur le système éducatif lui-même, les établissements, etc. Parce que, bon, d'abord, ils font ce qu'ils peuvent, et puis c'est difficile de trouver des moyens d'endiguer toute cette vague de violence, parce que la responsabilité est beaucoup plus profonde. La responsabilité, pardon, là on a affaire à des élèves mineurs. Pour moi, elle est essentiellement aux familles. Je veux dire, elle est à ce manque de responsabilité des parents par rapport à des enfants qui n'ont plus aucun respect des valeurs que représente l'école, que représente l'autorité dans toutes ses formes. Je veux dire que c'est quand même ça, au cœur des choses. Et si... Alors, on pourrait aussi parler de ce que représentent les enseignants dans notre société, etc., la manière dont ils ont été dévalués, symboliquement, financièrement aussi, bref. Mais fondamentalement, c'est le respect des normes, le respect des règles, le respect de l'autorité. Bien sûr. Là, parce que ces actes-là, c'est des actes de provocation aussi, par rapport...
Quand on tente de mettre le feu et que les extincteurs sont défectueux, on est un tout petit peu plus que dans la provocation.
Oui, mais je veux dire que c'est une manière aussi de tester ceux qui sont en face de vous.
C'est du test...
Ils font une riposte foudroyante.
Alors, comment,
à un moment donné,
là, donc,
il faut une
quoi
riposte foudroyante. Non, mais c'est, là, c'est une riposte...
C'est
une
riposte mais c'est quoi une riposte quoi
non, une riposte foudroyante, c'est une riposte judiciaire foudroyante. Ce sont des gens qui soient incarcérés. Ce sont des gens qui, s'ils se livrent à des violences au moment où la police intervient, subissent la violence légitime en retour. Voilà, il faut que ces gens-là... Que ce soit dans le cadre d'établissements scolaires ou dans le cadre ou quand ils se livrent à des exactions dans la rue, parce que ce sont les mêmes, se heurtent à la violence légale du système.
Alors, je pense qu'il faut régionaliser fortement. Je pense qu'il faut donner davantage de responsabilités aux directeurs d'établissement. Ce sera un grand enjeu du prochain et du futur président de la République. C'est une évidence. Et il faudra sans doute aussi davantage de moyens. Mais l'éducation nationale a aussi un peu ce qu'elle mérite. Elle a longtemps tenu à l'écart, se contentant d'explications sociales faciles. On est contre le capitalisme, on est contre... Bon, et le résultat des courses, c'est qu'on est confronté à une population qui ne respecte pas les codes. Les jeunes que tu décris, Thibault, ils font plus la différence entre la rue et l'école.
Ah, mais c'est ce que je dis.
Bien sûr, c'est ce que tu dis. Et il y a les mineurs que l'on ne sait pas gérer. Puisque même quand ils commettent des fautes graves, on ne sait pas où les mettre.
Ah mais si, on les redonne à l'établissement d'après. Bah, donc,
par exemple, et il y a des adolescents qui ont des cerveaux de mineurs dont on ne sait pas quoi faire non plus. Donc où le ministre, qui avait plutôt bien commencé, et que je trouve plus contrasté en finale, où il...
Ça c'est un jugement de valeur.
Allez, il faut en avoir de temps en temps. Où on est capable de bâtir, c'est un secteur de plus, et une réforme de plus à faire... À la rentrée après la présidentielle, un grand plan entre guillemets Marshall pour l'éducation nationale, ou alors des faits comme cela, on en parlera tous les après-midi.
Alexandre Devecchio, sur ces violences à Montlajoux.
Non, alors effectivement que l'éducation nationale est pêchée par idéologie, je pense plus la hiérarchie d'ailleurs que les acteurs de terrain.
Absolument.
C'est une réalité, mais ça a été dit, c'est une crise de la désintégration nationale, qu'on vit d'un ensauvagement général, et ça touche tous les secteurs. la police est confrontée au même problème. Et on a, de manière générale, un État qui a abdiqué, un État qui avait construit la nation française, donc c'est dire s'il est important en France, qui a abdiqué dans tous les domaines. Donc il faut restaurer l'autorité de l'État à l'école, dans la justice, dans la police. Et je crois que ça passe aussi par un peu de fierté. Jean Garrigue touchait quelque chose de juste quand il disait que la profession d'enseignant avait été dévalorisée, mal payée. Je crois qu'il faut aussi modifier le regard que la société porte sur les représentants de l'autorité de l'État et des professeurs bien payés qu'on respecte et que l'État respecte. Seront plus facilement respectés aussi par une partie de la population.
Mais alors qu'on arrête de dire qu'ils sont toujours en vacances et qu'ils ne travaillent pas assez.
Voilà, y a tout à
ça remet peut-être l'église au centre du village.
Même si ça passera aussi par les familles.
Mais vous avez raison. Jean Garrigue,
non, mais
et après Thibault.
Voilà, c'est, la question, elle est fondamentalement dans cette société, d'une désagrégation du principe de civisme, de respect de l'autorité, de respect des règles. C'est ça. Et c'est, je le répète, là, pour moi, il y a quand même la responsabilité des familles qui sont derrière.
Oui, mais bon. Thibault Nombrial.
Un mot quand même sur la conséquence politique de tout ça, parce qu'on a une élection qui approche, et on commence à voir depuis quelques semaines que le gouvernement commence, semble-t-il, à se positionner en contrepoids de ce qui est appelé par certains la dérive droitière des LR, sans parler de Zemmour et de Marine Le Pen, etc. Et donc, il semblerait que le gouvernement sortant, pour favoriser la réélection du président de la République, se place sur une ligne qui serait une ligne modérée, apaisante, etc. Mais c'est une ligne qui est en complet décalage avec la réalité qu'on observe tous les jours. Et donc, quand Jean-Claude, quand tu disais que Jean-Michel Blanquer avait un peu changé, etc., moi, je ne connais pas les secrets de l'intérieur, mais je trouve que c'est curieux, parce que Jean-Michel Blanquer, il ne peut pas être suspect de faiblesse par rapport à ces faits-là. Oui. Et quand on lit les interviews de Gérald Darmanin depuis 15 jours, on est stupéfait, parce que tout à coup, le réel a disparu. Donc là, il ne faudrait pas, pour le gouvernement, bon, après, le gouvernement, il fait ce qu'il veut. Hein. Mais si son choix de positionnement politique pour favoriser la réélection d'Emmanuel Macron, c'est de décrire une France qui est complètement étrangère à celle qu'on voit tous les soirs à la télé, je pense que...
Et que les gens vivent en réalité.
Que les gens vivent.
Et cette violence-là...
Ça va quand même être compliqué pour eux.
Thibault de Montbrial, que l'on voit là dans un établissement scolaire, elle s'exerce tous les jours à l'encontre des policiers.
Ah, mais tous les jours.
Ce week-end, il y en a un policier en service qui a pris un coup de couteau. À Mérignac, il y a deux policiers qui ont été frappés dans un centre commercial. C'est tous les jours, tous les jours.
Ah, c'est tous les jours, contre les policiers. Tous les jours. Et l'autorité qu'est supposée incarner la police, dont je rappelle quand même qu'elle est là pour préserver la paix publique. Elle n'est pas là pour embêter les gens, etc. La police est là pour préserver la paix publique. Aujourd'hui, de paix publique, il n'y a plus. Les faits de dimanche, ils sont terribles. Il se trouve que ce policier était hors service et n'a pas fait état de sa qualité.
Mais il était dans un centre commercial avec sa compagne.
Enlaçant sa compagne avec lequel il avait un tendre échange, et un groupe de jeunes qui se sont avérés mineurs est venu en disant « Et nous, est-ce qu'on peut en avoir aussi ?» etc. Il s'en est suivi une embrouille, et l'un des jeunes mineurs de 16 ans a très vite sorti un couteau et sans discussion, sans menace, sans rien, il a poignardé pour tuer ce jeune homme qui se trouvait être policier et qui aujourd'hui à l'heure où je vous parle, a été réopéré et est toujours dans le coma. Donc on est dans une situation d'une sauvagerie absolument terrible. Un jeune de 16 ans qui va embêter un couple et qui, face à une réponse du couple qui lui dit d'aller s'occuper de ses affaires, sort un couteau et tue.
Et quelle est la réponse pénale là ? Parce que le mineur a été présenté au juge en vue de l'ouverture d'une information judiciaire. Oui. La réforme du code de pénal fait qu'il va y avoir une césure entre... C'est la présentation à la justice et la sanction.
Ah non, en matière criminelle, il peut aller en détention provisoire.
D'accord.
Mais j'espère qu'il va. J'ose espérer que là, quand même, il va aller en détention provisoire. Mais c'est pas. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est une question qui s'est pas posée avant. C'est-à-dire que la dissuasion du risque d'aller en prison pour longtemps n'a pas fonctionné. Ce sont des gens. Quand je dis que l'hypothèse de tuer, que l'hypothèse de tuer est une hypothèse qui ne freine plus personne chez ces jeunes.
Mais qu'est-ce qui s'est passé dans cette génération Qu'est-ce qui s'est passé dans cette génération Non, mais il y a autre chose.
On l'a beaucoup dit. Je l'ai écrit. Je crois qu'on est tous d'accord autour de cette table. 30 à 40 développement de délitement, d'une classe politique qui n'a pas osé faire œuvre de restauration de l'autorité à l'époque où c'était encore possible, une vision bienveillante et naïve, dans le meilleur des cas, d'une partie de la population qui a immigré en France, un changement de culture. Dans les modes de violence qu'on subit actuellement, il y a des modes opératoires et des instruments qui étaient marginaux en France il y a encore 15 ans et qui sont là encore importés. Donc tout ça fait un cocktail détonnant et qui est en train de détonner.
Alexandre Devecchio.
Non, j'abonde dans le sens qui a été dit. Il y a un problème de civisme général et de désintégration sociale qui va au-delà de la question de l'immigration. Mais la question de l'immigration est une réelle question. Maurice Berger, qui est un spécialiste des violences, notamment des violences des mineurs, le dit. Il dit que c'est une violence avec laquelle ils sont élevés, souvent des violences conjugales, une vision tribale de la société qui ensuite est reproduite. Donc dans leur famille, la violence est banalisée. Et ensuite, il n'y a pas de frein de la justice pour mettre une sanction quand il y a les premiers actes de violence qui sont subis. Donc, n'ayant pas de sanction, ils pensent effectivement que le crime, finalement, n'est pas un problème jusqu'au meurtre, n'ayant pas du tout de repères. Donc, voilà, on a importé, hélas, des mœurs, faut bien dire, barbares, venues de l'étranger, et sans même adapter l'appareil juridique pour y faire face. C'est une vraie question, et qui est rarement posé, effectivement, parce qu'il y a un politiquement correct sur ces questions-là, et la crainte d'être accusé de racisme, effectivement.
Non, mais il faut la première sanction est essentielle. Je ne dis pas que ça réglera tout, mais il faut que le jeune qui teste le système, parce qu'il y a une part de test, même si c'est de la grande violence, il y a une part de test du système, il faut que le système lui envoie une décharge. Il faut que ça lui fasse quelque chose. Donc en fonction de la gravité de ce qui est fait, il y a une sanction plus ou moins sévère, mais il faut qu'il y ait une sanction immédiate. La réforme qui a consisté à mettre, de la part du garde des Sceaux, une présentation rapide devant un juge, c'est très bien, mais une sanction décalée à plusieurs mois, c'est un truc d'intellectuel. C'est un truc de prof de droit, c'est un truc de où on se dit ah bah ça va être formidable, le gars il va réfléchir pendant 8 mois, il va voir qu'on lui tend la main, etc. Non, l'autre il sort, il dit je les ai niqués, j'ai rien eu. Voilà. C'est la conclusion du congrès entre les gens qui se prennent le cerveau sur ces questions avec une vision qui est angélique, qui est empathique, qui est formidable, mais qui est décalée avec la réalité de la violence et la façon dont ceux qui commettent ces actes vivent la non-réponse de la société.
On a entendu le désespoir des professeurs, le désespoir des policiers, il est tout aussi important.
Ben oui, les policiers se sentent tout nus face à cette violence, avec les difficultés dont on a déjà parlé sur la façon dont eux peuvent utiliser la violence légitime, parce qu'il y a toujours cette crainte d'être ensuite poursuivi, d'avoir des ennuis, etc. Et du coup, leur retenue est également considérée comme de la faiblesse. Et puis, il y a ce qui est régulièrement dit, y compris sur votre plateau, par des policiers, le fait d'arrêter une fois, deux fois, dix fois les mêmes individus dans les quartiers, parce que, évidemment, policiers et délinquants se connaissent, et de les voir sortir une fois, deux fois, dix fois, même si, techniquement, derrière, il y a des mesures judiciaires qui sont prises, mais qui ne sont pas ressenties comme des mesures impactantes par les intéressés. C'est-à-dire qu'on peut faire, encore une fois, on peut analyser dans le détail en disant « Ah, mais si, mais on fait des choses, etc. » Ce qu'il faut, c'est que le délinquant, lui, ait l'impression d'être sanctionné.
Et pas seulement l'impression, mais qu'il le soit réellement.
Oui, mais pour ça, il faut qu'il le soit, évidemment.
Et bien, absolument. Un mot là-dessus, Alexandre Devecchio ?
Non, moi, je soustrais à tout ce qui a été dit. Pour le coup, je n'ai pas grand-chose à ajouter, mais si ce n'est que c'est un chantier majeur, quoi, et transversal, parce que c'est la justice, c'est la police, c'est l'école, c'est l'immigration, c'est l'intégration, c'est la famille. Et c'est effectivement, pour raccrocher avec la situation politique, c'est l'enjeu fondamental de la présidence. Et ce serait très décevant que le débat soit entre les raisonnables et les supposés excités. Ça peut peut-être suffire pour gagner, mais cette réalité-là explosera à la figure des dirigeants plus tard.
Un dernier mot après.
On peut aussi raisonnablement appréhender ces questions. La raison n'est pas forcément synonyme de faiblesse. Moi, je pense qu'il y a une prise de conscience collective des Français par rapport à ces questions, que la culture de l'impunité, l'explication par le social, etc., ne tiennent plus par rapport à une grande majorité de la population, y compris des gens de culture de gauche, on va dire. Et je pense que l'heure est venue aujourd'hui d'aller d'abord à un travail de pédagogie collective, mais là, ça va prendre des décennies, mais aussi vers une répression, vers la dissuasion par la répression.
Je disais, des postures de raison.
Alexandre
des postures de finalement, entre les gens sont tellement désignés l'adversaire comme tellement radical que finalement, ceux qui sont en commande n'ont pas besoin de durcir justement la répression. Il faut que tout continue comme avant.
Dernier mot, hein, parce qu'Alexandre a dit le mot juste. Il a dit tout à l'heure, c'est la désagrégation. C'est un des symboles, la désagrégation de notre tissu social. Notre société est en train de se désagréger. La violence augmente. On sait historiquement comment ces choses peuvent finir. Il n'est pas encore trop tard pour l'en empêcher. Mais, ceux qui pensent que l'enjeu vital de la prochaine élection présidentielle, c'est le pouvoir d'achat, je pense qu'ils n'ont pas bien compris
ce que disent les Français dans les sondages, en tout cas.
Oui, et après, les sujets suivants sont les sujets de sécurité.
C'est l'actualité qui impose plus ou moins
le sous-texte. C'est le destin individuel par rapport au destin collectif.
Tu as raison, c'est qu'il faudra qu'au plus haut niveau de l'État, la campagne va commencer. Après les fêtes, il va falloir qu'on ait une vision, qu'ils aient une vision à nous donner. Qui soit clair, et on verra dans quel sens. J'espère que tu n'auras pas raison.
Le pouvoir d'achat, c'est individuel, tout le reste, c'est collectif.
Bien sûr.
Allez, on fait une petite pause, on se retrouve dans un instant. On évoquera la campagne d'Éric Zemmour, qui a annoncé sa candidature hier. Et puis, on évoquera aussi la question des migrants à Calais. On va essayer de comprendre ce qui s'est passé la nuit du naufrage de ces 27 migrants qui tentaient de traverser la Manche. À tout de suite.
Europe 1. Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1.
On se retrouve dans Punchline sur Europe 1 et sur CNews. On évoque l'entrée en campagne d'Éric Zemmour. Ça s'est produit hier par le biais d'une vidéo et puis d'une interview au journal 20h de TF1 réalisée par Gilles Boulot. Une interview dont le désormais candidat s'est dit fort mécontent. On va voir dans ce sujet, écouter le sujet de Vincent Fernandez et Martin Mazur et on en débat ensuite.
Il a été accueilli en héros par ses soutiens. Mais l'interview d'Éric Zemmour dans le journal de 20h sur TF1 laisse un goût amer.
Il n'y a pas eu de questions sur mon projet politique et je le regrette.
Je vous réinviterai bien volontiers.
Non, mais c'était le moment ou jamais.
Je vous réinviterai bien volontiers. Une partie de ce que nous avons dit avait trait à votre programme.
Pas vraiment.
Il me semble que si.
Il me semble que non.
Le candidat estime avoir été dupé par TF1.
C'était une interview d'un procureur, pugnace, de mauvaise foi, me sortant des phrases de mon livre hors de leur contexte. Enfin bref, je n'étais pas venu défendre mon livre. Il y a eu maldonne, il y a eu même escroquerie intellectuelle.
Éric Zemmour tente de rattraper le coup en conférence de presse. Face aux journalistes, il dévoile une partie de son programme.
La priorité, vous savez, c'est simple. Je fais un référendum avant l'été sur l'immigration. Pour arrêter les flux d'immigration, pour supprimer le droit du sol, pour supprimer le regroupement familial.
Son premier vrai meeting de campagne aura lieu dimanche dans une grande salle francilienne.
Et alors justement, nous sommes avec Gauthier Lebret. Bonsoir Gauthier du service politique de CNews.
Bonsoir Laurence.
Cette grande salle parisienne, quelle est-elle ?
Eh bien, c'est au Palais des Expositions à Villepinte. Éric Zemmour va être devant 20 000 personnes. Il devait être au Zénith devant 6 000 personnes, sauf que la salle était donc trop petite pour lui. Il y avait 20 000 inscrits à son événement. L'objectif est donc de remplir cette salle, de faire un vrai coup de force, une vraie démonstration pour qu'on arrête de parler des polémiques, mais bien d'un meeting réussi.
Avec peut-être quelques jours de repos ou au contraire des rencontres prévues avec les Français, Gauthier, au programme ?
Non, pas de rencontre au programme de prévu avec les Français. Il sera à son QG pour préparer son premier meeting de candidat déclaré. Et lors de ce premier meeting de candidat déclaré, il va faire quelques annonces, Laurence. Il va notamment lancer le nom de son parti politique créé à partir de l'association des Amis d'Éric Zemmour. Il dévoilera également le logo et le slogan de sa campagne. Et sur le logo, nous avons quelques indices puisque j'étais à son QG hier et on a aperçu beaucoup de rameaux d'oliviers, symboles de paix, oui, mais surtout parce que Zemmour en berbère signifie Olivier.
Merci beaucoup Gauthier Lebret qui suit donc la campagne d'Éric Zemmour. Est-ce que vous avez été choqué Thibault de Montréal par l'interview d'hier, par l'ensemble de la prestation.
J'ai trouvé que l'interview était un peu trop centrée sur les différentes polémiques qui entourent la personne d'Éric Zemmour. C'est pas illégitime.
On sortait d'un week-end de polémiques. Hein.
Oui, c'est vrai. Vous avez raison. Certaines des questions n'étaient pas illégitimes, mais c'est normal. Déjà, moi, je pense que les journalistes peuvent demander.
Toutes
les questions sont légitimes. C'est évidemment important de le rappeler. Une fois qu'on a dit ça, c'était quand même l'occasion pour TF1, qui avait eu la primeur de cette première interview, de poser aussi des questions politiques. Donc j'ai été un peu déçu par les questions, mais j'ai été aussi un peu déçu par la façon dont le néo-candidat n'a pas réussi à s'extraire de ces circonstances, à prendre un petit peu de hauteur. Je l'ai trouvé contracté physiquement, et ses bras ne bougeaient pas. Par exemple, quand on s'exprime et quand on voit souvent Éric Zemmour à la télévision, il parle avec les mains, nous parlons tous plus ou moins avec les mains. Quand les gens sont complètement figés, c'est qu'il y a aussi un peu de contraction. Alors, on va voir, parce qu'en fait, tout ça n'est pas très grave, c'est pas du tout décisif. Mais je veux juste dire que l'ambition d'Éric Zemmour, c'est manifestement, et de toute façon, il en aura besoin, d'aller capter une partie de l'électorat LR. Et son socle en pourcentage, il l'a. Maintenant, l'enjeu pour lui, c'est d'avoir un éventuel accès au deuxième tour. Et je dis juste qu'il n'aura jamais, à mon sens, accès au deuxième tour. Il ne rassurera pas l'électorat LR s'il n'effectue pas vraiment sa mue en candidat. Il faut que... Évidemment, la vie politique est terrible et il va être durement attaqué. Et il faut qu'il se ressource, qu'il se renforce de ses attaques, qu'il plaise à une partie de son électorat. Mais il faut qu'il sorte de ce jeu d'antagonisme pour prendre de la hauteur. Et c'est, à mon sens, c'est la voie pour lui vers éventuellement une part de partie de l'électorat LR. Mais ça va aussi beaucoup dépendre
du nom du candidat
qui sera désigné samedi. Ça va encore dépendre de beaucoup de choses. Mais il y a encore du chemin, je pense, personnel pour Éric Zemmour.
Alexandre Devecchio, sur... d'entrer en campagne.
Alors moi, j'ai trouvé la vidéo très réussie. Tout le monde en a parlé, avec une forme nouvelle, surtout faisant écho aux angoisses existentielles des Français. C'est en cela qu'elle était efficace. Faisant appel aussi à des références historiques, littéraires. Je pense que ça, c'est une dimension d'Éric Zemmour qui devrait plus mettre en avant, qui donne un peu d'espoir dans le côté... il fait un diagnostic très, très dur, mais il doit essayer de créer une forme de sursaut. Je ne l'ai pas trouvé si mauvais que ça face à Gilles Boulot. Certes, il ne bougeait peut-être pas beaucoup les mains, mais je pense qu'il avait à cœur de montrer qu'il était calme, posé. Il a montré un visage, je trouve, rassurant pour ceux je me mets à la place des Français qui l'ont découvert, qui ne le connaissaient pas, parce que le journal de TF1, c'est énorme, c'est 7 millions de téléspectateurs. Et dans la France profonde, il y a une partie peut-être des gens qui ne connaissaient pas encore Zemmour. Il a été présenté comme le diable quand même, Zemmour, pendant des mois. Et ils ont vu quelqu'un qui a fait l'éloge de Joséphine Baker, qui a expliqué qu'il serait le président de tous les Français, y compris des musulmans. Donc la prestation n'était pas si mauvaise que ça. C'est vrai que la polémique derrière était peut-être pas nécessaire. Et en plus, il a dit ce qu'il avait à dire à Gilles Boulot à la fin de l'interview. Je trouve il aurait pu en rester là, parce que là, il donne l'impression effectivement qu'il était sur la défensive, alors qu'il ne l'était pas. Après, une polémique avec des journalistes dans une élection présidentielle, Jean-Luc Mélenchon, on a fait une recette du succès, donc c'est peut-être pas non plus un drame.
Ça ne dessert jamais le candidat. Jean-Claude Dacier, alors.
Bon, les succès de Mélenchon sont encore à venir, j'imagine.
Si Éric Zemmour fait 19% à la présidentielle, il est sans doute qualifié au second tour.
Encore faut-il qu'il le fasse.
Jean-Luc Mélenchon a bien des défauts, mais c'était pas un mauvais candidat.
Jean-Claude Dacier.
Bon, s'il change de pied et va à Villepinte pour faire un grand meeting à 20 000, je pense qu'il y parviendra, ou 19 000, c'est qu'il a senti le besoin, et il a tout à fait raison, qu'il fallait rebondir, qu'il fallait essayer d'en terminer avec ces 15 derniers jours qui ont inquiété beaucoup de gens et qui ont renforcé sans doute les soutiens du Zemmour. C'est la même chose, le public va se partager. Mais il avait besoin, et il a toujours besoin, de repartir avec un vrai succès. L'obtiendra-t-il à Villepinte ? Je ne sais pas. Ce qui est vrai, c'est que l'interview de TF1, on en parle encore ce soir, je pense que le journaliste pose en effet les questions qu'il estime devoir poser, puis l'invité répond comme il a envie de répondre.
Exactement.
Et si, je comprends pas bien, et si Zemmour avait voulu dire « attendez une seconde », je vais pas m'expliquer encore pendant 15 jours sur l'affaire du douai de Marseille. Je vais vous dire pourquoi je suis candidat. Et je vais vous dire ce que je vais faire dès mon arrivée si je suis élu. ont changé complètement de pied. Je pense qu'il est aussi responsable de cette affaire, ratée ou demi-ratée. Ce qui est, en revanche, complètement raté, c'est cette polémique ridicule qu'il enchaîne derrière. Il fallait surtout pas... Si même Boulot a été pas bon, on s'en sait rien, chacun juge. Mais c'était pas la peine, et c'est pas à lui. Quand on est candidat à une présidence de la République, c'est pas à lui de traiter un tel de connard, l'autre de... Et ça fait trop souvent que ça lui arrive. Ça va finir par inquiéter beaucoup de gens.
Alexandre Devecchio, et après tu peux nous
dire. Et Jean, je pense que...
Parce que oui, allez-y, Jean Garrigue. Je ne pas être intervenu sur ce sujet qui m'intéresse, parce que je n'ai pas du tout la même appréciation que ce que je viens d'entendre. Non, moi je trouve qu'il y a une contradiction totale entre la tonalité qu'il a voulu gaulienne, à travers un mimétisme, y compris à travers ce micro vintage, et cet appel solennel qui voulait évoquer l'appel du 18 juin, où il se mettait à la hauteur d'un sauveur de la France, qu'il n'est pas et qu'il ne sera jamais, parce qu'il n'y a pas deux générales de Gaulle. Une contradiction totale entre ça, les gestes, les provocations, les erreurs qu'il a commises, notamment à Marseille, le doigt d'honneur, et puis la manière dont il a été complètement paralysé par cette première intervention sur TF1, si vous voulez. Je n'imagine pas le général de Gaulle étant complètement paralysé par Michel Droit
en 1960. Enfin, il n'aimait pas les médias, hein. Il n'aimait pas les journalistes, si vous voulez, il n'aimait pas la télé.
Il y a un peu de contradiction, parce que quand on veut se placer, ce que je peux comprendre, c'est sa stratégie, à hauteur de l'histoire, à hauteur d'un drame qui intervient sur notre société, qui est en pleine désagrégation et qu'il veut sauver, il faut qu'ensuite il se montre à la hauteur de ça. Alors il ne s'est pas montré à la hauteur de ça avant, et il ne l'est pas après. Quand il traite dans les couloirs certains off de connard Gilles Boulot, ça n'est pas à la hauteur. Donc, si vous voulez, là, ne serait-ce que sur la forme, il y a une contradiction à mon sens, et j'ai peur que cette contradiction, on la retrouve un peu plus tard dans sa campagne. Ce qui ne veut pas dire que les résultats, je dirais en termes électoraux, les résultats en termes de partisans de cette séquence lui soient défavorables, parce que je pense qu'il va pouvoir se victimiser par rapport à cette cabale des médias contre lui. Ça peut être, beaucoup de gens l'ont utilisé,
cette méthodologie. Classique.
Mais si vous voulez, pour moi, il y a une incohérence.
Alors Thibault de Montbrillard, la dernière mot là-dessus.
J'ai pas l'impression qu'on soit tellement en désaccord sur l'analyse, parce que ce que vous dites est très juste et pas contradictoire avec ce qu'on a dit avant. Non. Je veux juste rajouter une chose, parce qu'il va falloir d'une part qu'il prennent cette hauteur que les événements appellent, hein, vous avez raison, mais que aussi son intérêt politique appelle. Je disais tout à l'heure, pour aller prendre une partie de l'électorat dont il aura besoin pour accéder au deuxième tour, pour s'en approcher en tout cas, mais aussi, au préalable, pour avoir des ralliements. Parce que pour l'instant, ce qui est quand même intéressant, c'est qu'il est tout seul. Et les gens dont on pensait qu'ils allaient pouvoir peut-être s'approcher de lui, dont les noms circulaient à tort ou à raison depuis quelques semaines, ont tous pris du recul. Sauf surprise, personne ne sera dimanche sur l'estrade avec lui. Et ça va finir quand même assez vite par lui manquer. Et ça ne sera possible, me semble-t-il, que s'il arrive à prendre cette hauteur.
J'aimerais juste qu'on garde quelques minutes pour évoquer le sujet des migrants. On évoquait ce naufrage en Manche le 24 novembre dernier. 27 migrants qui ont péri. On a le témoignage d'un des rescapés qui a nagé pendant des heures cette nuit-là, qui dit que les autorités françaises et anglaises se sont renvoyées la balle à plusieurs reprises pendant que le navire prenait l'eau, que l'embarcation prenait l'eau. J'aimerais juste qu'on écoute son témoignage, puis je vous passe la parole ensuite.
Au bout d'un moment, nous avons appelé la police française pour obtenir de l'aide. Et nous leur avons dit que le moteur était cassé. Alors la police française nous a envoyé la localisation et nous a dit que nous étions dans les eaux britanniques. Et nous avons appelé la police britannique. Et ils nous ont dit d'appeler la police française. Il y avait deux personnes qui appelaient, le côté français et le côté britannique. La police britannique ne nous a pas aidés, tandis que la police française a dit « Si vous êtes dans les eaux britanniques, nous ne pouvons pas venir ». La Grande-Bretagne devait venir nous aider, car nous nous sommes noyés dans les eaux britanniques. Mais elle ne nous a pas aidés et n'a rien fait pour nous non plus.
Thibault de Montbrillard, il va falloir qu'une enquête détermine ce qui s'est passé sur cette embarcation où 27 personnes ont péri. Est-ce qu'il y a eu vraiment un problème du côté des Britanniques ? Est-ce qu'il aurait fallu envoyer des secours plus tôt ?
Qu'est-ce que vous voulez que je vous réponde ? Je ne sais pas.
La question de ces migrants...
De ce que j'ai compris, les deux polices démentent. Si, comme il l'a dit, l'appel c'était on a un problème de moteur, c'est pas pareil que si vous dites on coule. Donc tout ça, il y a des choses que je ne sais pas et qu'il faudra que l'enquête détermine. Ce que je veux juste dire, c'est que la sortie de l'Union européenne, des Britanniques, elle change tout. Aujourd'hui, on a un système juridique sur les questions migratoires qui est en amont les accords de Dublin et en aval, puisque les gens dont on parle sont des gens qui ne veulent pas rester en France ni sur le territoire européen, mais veulent aller en Grande-Bretagne. On a les accords du Touquet. C'est-à-dire que par les accords du Touquet, je rappelle, la France a accepté de devenir le garde-frontière de la Grande-Bretagne, mais parce que nous étions en 2003, et puis ça a été révisé plusieurs fois, parce que nous étions dans un cadre européen commun. La sortie, le Brexit, change tout. Aujourd'hui, il n'y a aucune raison de rester dans les accords du Touquet. Il faut les dénoncer, les renégocier. Mais la police française n'a pas vocation à jouer le rôle de garde-chiourme pour les Anglais et à garder sur notre territoire, sur le territoire européen, et en l'occurrence sur le territoire français, des gens qui ne veulent pas y rester et qui sont, pour toutes les raisons qu'on connaît, un poids économique, social, etc.
Et bien au-delà de la question des passeurs, il y a la question effectivement de ces gens qui arrivent
bien
là.
Bien sûr, et j'insiste pour dire qu'en amont, il y a des associations qui vont chercher les migrants dans les eaux libyennes, qui sont subventionnées par l'Europe et par la France en particulier, et qui sont des complices de tous ces drames. Il ne faut pas simplement dire que ce sont les polices, même françaises, anglaises ou les polices européennes, qui sont les complices. Les policiers, ils font ce qu'ils peuvent. Ils sont là pour écoper toute cette misère, et cette misère, on ne lui oppose pas la détermination politique absolue qu'on devrait lui opposer, parce que, comme je le rappelle à chaque fois, la première des missions d'un gouvernement, c'est de protéger sa population, pas la population du monde entier, sa population. Et l'Europe, et la France en l'occurrence, et l'Europe ne font pas le job à cet égard.
Un mot, Jean-Claude Dacier.
Pour un mot, je pense que les accords du Touquet, Thibault a raison, ne sont plus pertinents. On va pas... Sinon, qu'est-ce qui va se passer? On n'arrêtera pas, on aura le plus grand mal à arrêter le flux des réfugiés qui veulent à tout prix aller en Angleterre et n'aller qu'en Angleterre. On en fait quoi? S'il ne s'ouvre pas une vraie négo avec les Anglais, un couloir sur lequel on puisse dire, voilà, on va stocker les migrants qui arrivent et on va recréer la jungle de Calais dans des meilleures conditions peut-être, mais c'est pas acceptable. Il faut que les Anglais assument maintenant leurs frontières. Ils ont voulu l'indépendance. Quitter l'Europe, ils l'ont. Il faut maintenant qu'ils assument la difficulté qui va consister, en effet, à essayer de négocier.
La France va prendre la tête de l'Union européenne en janvier, peut-être que ça sera
Ils gardent la pêche, on garde les migrants, c'est un peu déséquilibré.
Il y a un peu de ça quand même, une seconde.
Que c'est devenu un problème d'abord des Britanniques ou de l'Europe. Parce qu'il y a aussi les frontières de l'Europe à mieux préserver.
Moi, je suis d'accord. Les Britanniques sont redevenus souverains, ils doivent assumer. Mais les gens, avant d'arriver devant la Manche, ils traversent toute l'Europe. Voilà. Donc ça reste notre problème. Et le jour où les Anglais récupèrent leurs frontières, il faudra quand même défendre
les Merci à tous les quatre d'avoir participé à ce Punchline. Je vous retrouve dans un instant sur Europe 1 pour les débats de Punchline. Et tout de suite, Christine Kelly et ses invités pour Face à l'Info. Bonne soirée sur CNews. Il est 19h, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1. Dans un instant, les débats de Punchline, mais tout de suite, c'est le journal avec Hélène Zélani. Bonsoir Hélène.
Bonsoir Laurence, bonsoir à tous.
De nouveaux cas suspects de variant Omicron en France et des conditions d'accès plus sévères aux frontières. En revanche, pas question d'instaurer la vaccination obligatoire. Les détails dans un instant.
Le bras de fer franco-anglais sur les licences de pêche, Guernesey en accorde 43 pour 58 demandes. Les Républicains se cherchent un représentant pour la présidentielle. Le vote des militants a commencé ce matin. Et puis la judoka Margot Pinault publie une photo de son visage tuméfié sur les réseaux sociaux. Elle affirme avoir subi les coups de son compagnon judoka lui aussi, mais il a été relaxé.
La tendance météo avec vous, Marlène Duret. Bonsoir Marlène.
Bonsoir Laurence et bonsoir à tous. Eh bien, après le redout de ce mercredi, les températures repartent à la baisse. Demain, et côté ciel, des giboulées à l'est du pays et le retour de la neige à basse altitude sur nos massifs. Rendez-vous à la fin du journal pour un point complet.
Europe 1.
Le variant Omicron semble bien gagner du terrain, 13 cas suspects en France pour l'instant.
Oui, annonce de Gabriel Attal à l'issue du Conseil des ministres. Le porte-parole du gouvernement appelle à n'être ni dupe ni naïf sur d'autres cas qui seront annoncés dans les heures ou les jours qui viennent. En tout cas, face à la menace, la France resserre la vis, Jacques Serret.
Oui, les conditions d'accès pour rentrer sur le territoire français sont durcies. Tout voyageur en provenance d'un pays hors de l'Union européenne devra présenter à l'embarquement un test négatif de moins de 48 heures et ce que cette personne soit vaccinée ou non. Serrage de vis également pour les voyageurs en provenance des pays de l'Union européenne. Là, pour les non vaccinés, la France imposera un test négatif de moins de 24 heures. Jusqu'à présent, c'était 72 heures. Durcissement d'un côté, mais léger relâchement de l'autre, puisqu'à compter de samedi, les vols qui étaient suspendus avec les pays de l'Afrique australe, comme l'Afrique du Sud, vont reprendre, sous certaines conditions tout de même, comme l'a précisé le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal.
Les ressortissants français, les résidents qui sont bloqués, pourront regagner la France. Ils pourront le faire en produisant un test négatif à l'embarquement et ils pourront le faire en étant testés à l'arrivée et en respectant un isolement obligatoire pendant 7 à 10 jours selon le résultat de leur test. Mais vous voyez bien qu'on ne prend aucun risque.
Et une amende de 1 000 à 1 500 euros est prévue pour les voyageurs en provenance de ces pays d'Afrique australe qui ne respecteraient pas leur isolement.
Jacques Serret.
Et puis l'idée d'instaurer la vaccination obligatoire fait son chemin.
Oui, Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, suggère des discussions sur cette question.
Je pense qu'il est compréhensible et approprié d'avoir cette discussion maintenant. Comment pouvons-nous encourager et potentiellement penser à la vaccination obligatoire au sein de l'Union européenne ? Cela doit être discuté. Cela nécessite une approche commune, mais c'est une discussion qui, je pense, doit être menée.
Voilà, décision qui relève de chaque État membre de l'Union. Côté français, que pense-t-on de cette idée ? Écoutez la réponse d'Olivier Véran, le ministre de la Santé.
L'obligation vaccinale n'est pas le choix que la France a fait, pour différentes raisons. D'abord, qui dit obligation dit contrôle et sanctions. Donc la faisabilité n'est pas évidente. On sait faire une obligation vaccinale chez les tout-petits, chez les nourrissons, puisque vous ne pouvez pas rentrer dans un établissement collectif type crèche ou école si vous n'êtes pas vacciné contre certaines maladies de vaccination obligatoire. Pour les adultes, c'est plus compliqué. Je ne dis pas que c'est impossible, et je comprends parfaitement que certains pays puissent se poser la question. En France, nous avons fait le choix, nous, du pass sanitaire, qui a été un incitatif puissant, et je le dis, nous avons encore notre destin entre nos mains, et cet effet coupe-feu d'une campagne de rappel vaccinal massive, ça a fonctionné dans d'autres pays, ça fonctionnera chez nous.
Olivier Véran, ministre de la Santé, qui par ailleurs reconnaît un effet embouteillage normal pour trouver un créneau de vaccination, mais il est convaincu que tout le monde aura sa troisième dose dans les 7 à 8 semaines. Et puis pour la petite histoire, la municipalité de Limoges distribue cette semaine à tous les écoliers des équerres, des rapporteurs et des règles plutôt originaux. Les 6000 kits sont fabriqués à partir de masques chirurgicaux. Ils ont été récupérés par la ville avec une association d'insertion.
La France gagne une première manche dans le conflit des licences de pêche qui nous oppose aux Anglais.
Guernesey décide en effet d'accorder 43 licences à des bateaux français qui pourront donc continuer à pêcher dans les eaux de l'île anglo-normande. 43 licences pour 58 demandes. La ministre de la Mer, Annick Girardin, parle d'excellentes nouvelles pour nos pêcheurs. Satisfaction également de Marc Delahaye, c'est le directeur du comité des pêches de Normandie.
Alors c'est une bonne nouvelle parce que ça réouvre une perspective à tous ceux qui avaient des droits historiques prouvés dans ces eaux. Ils savent qu'ils vont pouvoir faire travailler leur entreprise comme ils le faisaient par le passé. Guernesey, ils sont allés d'une façon très technique, pas du tout politique. Par contre, j'émettrai un bémol. On attend plus d'informations sur les mesures techniques qui vont accompagner les accès qui ont été donnés par Guernesey. Savoir combien de jours, quelle quantité possible, quel type d'engin, quelle espèce, quelle saisonnalité. Il y a encore du travail à faire, c'est clair.
Des propos recueillis par Thibaut Hue pour Europe 1.
Eux vont à la pêche, mais aux voix, les 5 candidats à l'investiture LR pour la présidentielle attendent fébrilement le choix des militants.
Eh oui, Pécresse, Barnier, Bertrand Ciotti ou Juvin, le vote du premier tour a commencé ce matin. Réponse définitive, samedi après-midi, Alexandre Chauveau. On a déjà un premier chiffre, celui de la participation à 18h.
Oui, 52,8%, ça correspond à un petit peu moins de 74 000 votants pour l'instant. Un chiffre qui devrait encore augmenter d'ici demain 14h, heure de la fin du premier tour, et qui sera évidemment scruté, car même si le corps électoral est restreint aux adhérents, plus la participation sera importante, et plus le candidat arrivé en tête aura de légitimité. L'objectif pour les Républicains étant, on le rappelle, de lancer une dynamique à 5 mois de la présidentielle. Et puis ce sera également un moyen pour les 3 autres candidats non qualifiés de peser dans l'optique du second tour. Le scrutin étant particulièrement serré, les alliances entre candidats et les reports de voix pourraient jouer un rôle décisif. À ce stade, aucun candidat n'a réellement anticipé sa campagne de second tour, qui ne durera de toute façon que quelques heures, entre demain après-midi et demain soir minuit. Il n'y aura ainsi pas de débat entre les finalistes, conformément à la volonté du parti qui ne voulait pas laisser de place à la moindre division. Le second tour aura donc lieu dans la foulée entre vendredi 8h et samedi 14h. Et c'est samedi à 14h30 que l'on connaîtra le ou la grande vainqueur qui tiendra un grand meeting la semaine suivante, porte de Versailles à Paris.
Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1. Le nouveau candidat à la présidentielle, Éric Zemmour, qui a rassemblé, vous le savez, plus de 7 millions de spectateurs hier soir sur TF1, change de salle pour son meeting de dimanche. Fini le Zénith, ce sera le parc des expositions de Villepinte. 19 000 personnes attendues, selon son équipe. Et puis, c'est aujourd'hui que la réforme de l'assurance chômage entre en vigueur. Pour être indemnisé, il faudra avoir travaillé 6 mois au lieu de 4 sur les deux dernières années. Et pour les plus hauts salaires, plus de 4 500 euros bruts mensuels, la dégressivité de 30% commencera non plus au 9e, mais au 7e mois.
Une petite pause et on parle ensuite de cette photo choquante publiée par la judoka Margot Pino, un visage déformé par les coups de son compagnon et ex-entraîneur. A tout de suite dans Punchline.
Europe 1, Punchline, Laurence Ferrari.
Et on se retrouve dans la suite du journal de 19h avec Hélène Zélani. Hélène, on parle beaucoup des violences faites aux femmes en ce moment. Aujourd'hui, c'est la judoka Margot Pino qui affirme avoir été victime d'une violente agression.
Oui, de la part de son compagnon et ex-entraîneur Alain Schmitt, lui aussi ancien médaillé aux Jeux Olympiques. Il a été relaxé, mais le parquet a finalement fait appel. Si on parle beaucoup de cette affaire ce soir, Jean-François Pérez, c'est à cause de la photo que Margot Pino publie sur les réseaux sociaux.
Oui, c'est une photo qui a déjà indigné des milliers de personnes sur les réseaux sociaux. On y voit le visage tuméfié de Margot Pino. Elle affirme avoir frôlé la mort sous les coups d'Alain Schmitt dans la nuit de samedi à dimanche. Nous avons joint la championne ce soir. Elle ne souhaite plus s'exprimer pour le moment, mais elle nous a confié qu'elle était encore sous le choc de ce déferlement de violence manifestement réciproque. Pour Europe 1, le président de la Fédération française de judo, Stéphane Nomis, accepte ce soir de revenir sur les faits. Il s'étonne que la justice ait, dans un premier temps, relaxé l'ancien judoka.
J'étais hyper choqué de la voir dans cet état-là le premier jour. C'était waouh, c'était vraiment dur. Moi, je n'ai pas de raison de ne pas la croire. Il y a une phrase, moi, qui m'a choqué, c'est absence de preuves, 10 jours de ITT, voilà, le nez, les marques au visage, et tuméfié partout, des bosses, et voilà, c'est plus que de communiquer. Depuis 3 jours, on fait avec elle et on est proche d'elle et on est à son soutien, quoi.
Voilà, le parquet de Bobigny ayant fait appel de cette relaxe pour absence de preuves, le dossier reste ouvert. En attendant, le monde du judo monte au soutien de la double championne d'Europe et championne olympique par équipe. Clarisse Agbenienou s'interroge. Que faut-il pour que des sanctions tombent? La mort, point d'interrogation. Et Teddy Riner se dit profondément touché. Il dénonce des violences intolérables et inacceptables.
Jean-François Pérez, merci. Première réaction d'Emmanuel Macron à l'affaire Nicolas Hulot, son ex-ministre accusé de viol et d'agression sexuelle par plusieurs femmes. Selon nos informations, le chef de l'État a estimé en Conseil des ministres « Nous n'accepterons jamais une société de l'opacité ou de la complaisance et nous ne voulons pas non plus d'une société de l'inquisition ». Fin de citation.
C'est ce que l'on appelle un cold case du nom d'une célèbre série télé, une affaire judiciaire ancienne qui restait un mystère, le meurtre d'une jeune fille de 17 ans en 1994 dans l'Aisne.
Oui, Nadège Desnois avait été retrouvée morte à Château-Thierry, le tueur courait toujours, sauf que 27 ans après... Un homme de 55 ans est en garde à vue. C'est l'ADN qui a parlé, Yasmine Akatou.
Oui, son ADN a été récemment enregistré dans le fichier national des empreintes génétiques dans le cadre d'une affaire de violence conjugale. Et ces empreintes correspondent à celles retrouvées sur la scène de crime il y a près de 30 ans. En mai 1994, dans l'Aisne, Nadège Desnois, 17 ans, est retrouvée morte, étranglée et lardée de coups de couteau. Son corps avait été abandonné sur le bord d'un chemin à proximité de son lycée. Dans un premier temps, la piste de Michel Fourniret, le tueur en série, a été explorée par les enquêteurs. Finalement, son ADN l'a trahi. Le quinquagénaire était donc entendu par les enquêteurs depuis son arrestation hier. Il est connu par les services de police pour des faits d'enlèvement d'enfants. L'homme doit maintenant s'expliquer sur la présence de son ADN sur la scène de crime.
Yasmina Katou.
Puis ce 1er décembre marque la journée mondiale de lutte contre le sida. 200 000 personnes en France, vivent avec cette maladie.
Oui, mais elles affrontent souvent des préjugés, voire des discriminations, souvent par méconnaissance. C'est le cas de Flavie, 57 ans, dont 35 de séropositivité.
Il n'y a pas très longtemps, on m'a proposé de travailler avec des enfants pour des ateliers. Mais on me demandait de travailler éloigné des enfants, de ne pas m'en approcher. Et ils n'ont pas compris que je n'accepte pas cet emploi. Les gens sont gentils avec moi, mais relativement rassurés que je sois un peu en dehors du système. Et c'est ça que je veux pas qu'il arrive aux plus jeunes. Je voudrais qu'ils puissent vivre normalement et qu'on ne les oblige pas à se mettre en marge de la société. Ce qu'on m'a un peu poussé à faire à une époque de ma vie. Il n'y a pas de raison qu'on leur demande de se mettre en marge de la société. Elles peuvent vivre tout à fait normalement. Elles ont des traitements tout à fait corrects qui vraiment sont aujourd'hui incroyables et donc elles doivent avoir des vies normales.
Flavie, au micro européen d'Afsané Saboui, elle est d'ailleurs l'un des 5 visages de la nouvelle campagne de l'association Aide.
Le football, avec un match attendu ce soir au Parc des Princes, PSG Nice.
Oui, attendu parce que le premier du classement reçoit le troisième, mais aussi et surtout parce que ce sera l'occasion pour les heureux spectateurs de découvrir en vrai le ballon d'or de Lionel Messi. Cédric Chasseur, vous êtes en ce moment devant le Parc des Princes.
Oui, c'est un peu le jour d'après pour le PSG qui va mettre en avant Messi et Donnarumma, le meilleur joueur et le meilleur gardien du monde selon le classement révélé lundi. Paris Golden City, ville dorée, est ainsi affichée sur la devanture du Parc des Princes où le Ballon d'Or et le trophée Yachine seront présentés au public avant PSG Nice. Après, place au jeu, Messi pourrait tenir sa place malgré des symptômes de gastro-entérite hier. Pas Neymar, victime d'une grosse entorse de la cheville et absent près de 2 mois. Ni Ramos, préservé par Mauricio Pochettino. En face, Nice, 3e à 14 points déjà du PSG, doit se reprendre après sa défaite face à Metz, lanterne rouge de Ligue 1. Nul doute qu'un bon résultat au Parc des Princes où les Aiglons n'ont plus gagné depuis novembre 2009, soit 10 matchs, permettra de remettre les choses en ordre. Vous le voyez, Hélène, tout est prêt ce soir pour vivre un choc entre le Paris Saint-Germain et Nice, coup d'envoi 21h.
Merci Cédric Chasseur devant le Parc des Princes pour Europe 1.
La météo avec Marlène Duret. Marlène, un temps à giboulée et de la neige en montagne.
Oui, c'est un ciel de traîne plus ou moins actif qui se généralise demain, accompagné d'une arrivée d'air froid. Un temps à giboulée, oui, le long de la frontière belge, dans les régions du Grand Est, sur une grande partie de la Bourgogne, en Alsace, en Franche-Comté, mais aussi en Auvergne, Rhône-Alpes, Midi-Pyrénées. Donc le temps sera nuageux à couvert et pourra donner des averses avec des limites plus neige qui seront plus basses que celles d'aujourd'hui. Elles vont s'abaisser à 300 mètres dans les Vosges, 400 mètres dans le Jura et le Massif central, 500 mètres dans les Alpes, et puis il neigera même jusqu'en plaine, près des frontières du Nord et du Nord-Est, mais a priori, la neige ne tiendra pas au sol. Des nuages vont venir se bloqué aussi sur la chaîne des Pyrénées avec de la neige à partir de 800-900 mètres. Du côté de la Méditerranée, en revanche, grâce au vent, on va retrouver du beau temps sur tout le pourtour et dans les Alpes du Sud. Pas du côté de la Corse, en revanche, puisque le vent sera orienté différemment. Et puis, pour toutes les autres régions, donc en allant vers l'ouest du territoire, des éclaircies et un ciel qui va se charger à nouveau en Bretagne, annonçant l'arrivée d'une nouvelle dégradation. Du côté des températures, hormis dans le sud-est, ça baisse. Partout, le matin comme l'après-midi, et l'après-midi justement, elles seront de l'ordre de 3 à 6 degrés sur un bon quart nord-est. Comptez en général 5 à 8 degrés au nord-ouest, un petit peu plus dans le Finistère, on va monter jusqu'à 10. Sur la moitié sud, il fera généralement 6 à 11 degrés, et toujours plus près de la Grande Bleue avec 11 à 15 degrés.
Merci Marlène Duret pour cette température. Hélène Zélani, à demain 19h pour les journaux, bonne soirée à vous. Nous, dans un instant, on se retrouve pour les débats de Punchline. On parlera de la campagne d'Éric Zemmour, de l'interdiction de l'obligation vaccinale par Olivier Véran et de Gérald Darmanin. A tout de suite.
Europe 1. Punchline. Laurence Ferrari.
On se retrouve dans Punchline avec nos débatteurs. Nous sommes avec Louis de Ragnel, chef du service politique d'Europe 1. Bonsoir Louis.
Bonsoir Laurence.
Nous sommes avec Françoise Laborde, journaliste. Bonsoir.
Bonsoir.
Et Jeannette Pograbe, essayiste. Bonsoir.
Bonsoir.
Jeannette, pas mal de sujets politiques aujourd'hui. Les LR votent, Éric Zemmour est entré en campagne. On va parler de l'obligation vaccinale dans un instant. Mais on commence peut-être par l'entrée dans le dur d'Éric Zemmour avec cette annonce de candidature hier. Ce journal de 20h à TF1 hier soir, dont il est sorti fort mécontent. On va écouter ce qu'il en a dit quand il est arrivé à son QG un peu dans la soirée, un peu plus tard.
Il s'est révélé un procureur pugnace, de mauvaise foi, me sortant des phrases de mon livre hors de leur contexte. Enfin bref, je n'étais pas venu défendre mon livre. Il y a eu maldonne, il y a eu même escroquerie intellectuelle. Et M. Boulot n'a pas fait son travail. M. Boulot a voulu faire le malin devant ses confrères. M. Boulot n'a pas fait son boulot. Moi, je connais le travail de journaliste et je sais ce que c'est. Et je sais ce qu'il aurait dû faire. Et ce n'est pas ce qu'il a fait.
Françoise Laborde, vous qui connaissez bien les questions d'audiovisuel, pour avoir été sage,
Mais moi, ce qui m'étonne, c'est qu'il soit étonné. C'est la règle du jeu. Enfin, moi, j'ai regardé, franchement, Gilles Boulot a fait l'interview de façon tout à fait convenable, honnête et comme il fallait le faire, de mon point de vue. Il a posé les questions qui se posaient, parce qu'en effet, quand on arrive et qu'on se présente comme candidat à la présidence de la République, on ne peut pas faire table rase du passé, on vient de quelque part, on a eu des déclarations avant, et c'était bien normal. Moi, ce qui m'étonne, c'est que Éric Zemmour, c'est pas un débutant, c'est quelqu'un qui connaît les règles du jeu. On sait très bien que quand on va dans un journal de 20 heures, c'est pas une émission où on peut débattre pendant 2 heures. Donc déjà, on se renseigne avant le journal, où on demande à son entourage de se renseigner pour savoir combien de temps on a, si on peut parler pendant 10 ou 15 minutes. Ça change. On prépare 2 ou 3 punchlines parce qu'on sait qu'on n'aura pas beaucoup de temps et donc on a interviewé, vous comme moi, des centaines d'hommes politiques. Ils vous posent une question, ils répondent rapidement et puis après
ils déroulent ce qu'ils veulent. Absolument.
Voilà.
Absolument.
Et là, à chaque fois que Gilles Boulot posait une question, quand il interroge par exemple sur est-ce que vous savez déjà qui sera votre Premier ministre, au lieu de répondre non, c'est pas la question, mais je peux vous dire quelles sont mes 3 premières mesures, ce qu'il aurait fait s'il avait eu un peu d'expérience de l'exercice, enfin ce qu'on aurait pu être en mesure d'attendre, il se braque en disant non, ça n'a pas d'intérêt, et on le sent grognon pendant l'interview, alors qu'on sait que le béaba quand on passe à la télévision et qu'on veut justement rassembler les Français, c'est d'être de bonne humeur et de pas être grognon. Donc moi j'ai été absolument surprise de cette façon de faire.
C'est une surréaction post-interview.
Et puis après, voilà, dire ah mais quand même vous m'avez pas interrogé comme il fallait. C'est un petit côté un peu puéril et un peu en dehors de la réalité, comme s'il découvrait ce qu'était un exercice qu'il devrait quand même connaître. Mais c'est vrai que ça n'est pas du débat. L'interview dans un journal de 20 heures, c'est pas comme un débat.
Absolument. Et c'est très ramassé, très court. Et 10 minutes, c'est le tarif normal, je dirais, pour un candidat.
Absolument. Absolument.
Jeannette Beaugrabe.
Éric Zemmour s'est comporté comme un enfant gâté, voilà, parce que c'est quand même pas donné à tout le monde de pouvoir faire le journal de 20 heures pour annoncer sa candidature. Et moi, j'étais surprise, en réalité, de voir sa réaction. Alors, je ne sais pas s'il a prononcé les invectives qu'il a dit ou pas, ce pauvre Gilles Boulot, mais je me dis, mais il a une chance extraordinaire de pouvoir s'exprimer devant des millions de personnes et de pouvoir défendre des idées qui sont les siennes. Et au lieu de le faire, en fait, il se braque. Et pourtant, il a été combien de fois dans la position d'interviewer, de manière d'ailleurs assez, parfois assez agressive, quand il était de l'autre côté. Donc c'est vrai qu'on est un peu surpris de voir en réalité de sa réaction. Et donc se pose à nouveau la question de savoir, est-ce qu'il ne perd pas de temps en temps facilement ses nerfs? Et en même temps, je le trouve assez injuste, parce que du coup, j'ai regardé moi l'interview, mais en différé. Je trouvais qu'il y avait aussi des moments où, quand il parle de la belle Joséphine Baker, je trouvais que c'était très touchant et que globalement, voilà. Donc, et en même temps, c'est l'exercice. Mais je trouve que c'est un enfant gâté parce qu'il a eu la chance d'avoir une couverture médiatique pour un candidat pour un non-candidat, mais maintenant candidat.
Oui, tout à fait.
Fabien Roussel du Parti communiste n'a pas pu annoncer son île parti animaliste, sa candidature au.
Fabien Roussel-ci, mais pas, sans doute pas le candidat du Parti animaliste. Oui.
Animaliste
Louis Dragnel, voilà. Là, on a appris qu'Éric Zemmour allait déplacer son meeting du Zénith dimanche soir à Villepinte pour passer de 6 000 à 19 000 participants. C'est une façon de reprendre la main aussi ou pas?
Oui, aussi. Alors, on sait qu'il joue aussi depuis le début la stratégie du surbooking. Le Zénith était déjà plein, mais ils disent continuez, inscrivez-vous et tout. L'objectif, c'est de montrer le plus de personnes à l'extérieur. Et il s'est rendu compte, en fait, que compte tenu de la mobilisation, il y avait un peu trop de personnes à l'extérieur et surtout, ça pouvait poser des problèmes de troubles à l'ordre public avec les manifestations d'extrême gauche qui sont prévues dimanche prochain devant le Zénith. Et donc, voilà, il déplace un peu il change de lieu avec la volonté d'afficher beaucoup plus de monde dans la salle, mais aussi à l'extérieur. Et en se disant, en faisant le pari aussi, que le rapport de force face à l'extrême gauche, aux antifa, ce rapport de force, lui, sera favorable. Donc voilà, donc il est en train d'essayer de montrer aussi que sa campagne reprend, donc il montre un peu les muscles. Il y a toujours cette volonté, de toute façon, chez tous les candidats, de faire cette démonstration de force et avec un indicateur qui a la capacité à mobiliser. Donc on
remplir une salle, comme Nicolas Sarkozy avait fait le meeting à Villepinte.
Voilà. Absolument.
Mais c'est un gros challenge.
Et sur la surréaction après l'interview de Gilles Boulot, c'est quoi? C'est un caprice d'enfant gâté, comme le dit Jeannette Beaugrand.
Moi, tout d'abord, je n'ai pas trouvé que c'était une mauvaise séquence. Mm-hmm. C'est lui, en fait. Enfin,
La mauvaise séquence, c'est sa réaction.
Mais je m'attendais pas à autre chose. Ensuite, Éric Zemmour, on voit bien, il avait envie qu'on lui pose une question sur le fond. Mais là où je vous rejoins toutes les deux, c'est qu'il est rodé, il connaît parfaitement l'exercice. Et en fait, le fond, il aurait pu en parler de lui-même. Il a beaucoup parlé de Joséphine Baker, effectivement, dans un format très court. Donc, il aurait pu de lui-même dire, voilà, moi, mes propositions sur tel et tel sujet. Voilà.
Il a quand même, c'est pour ça que je trouve il est fondamentalement injuste dans son analyse, parce que Gilles Boulot lui a donné la possibilité, parfois, d'avoir un visage, en tout cas, plus... empathique, notamment.
Il joue aussi, je pense, la défiance face au système. Et mais TF1, le journal télévisé du 20h de TF1.
Il est du système.
Non, mais je sais bien. Mais comme tant d'autres, Jean-Luc Mélenchon le fait de la même manière, avec ses codes à lui, il y a de plus en plus de politiques qui veulent montrer qu'ils ne sont pas comme ça dans le système. Et il y a le côté un peu bataille face à quelqu'un qui a installé Gilles Boulot, présentateur du JT de 20h de TF1. Vous savez de quoi je parle, cher Laurence, ça vous rappelle quelques souvenirs.
Ça me rappelle quelques
souvenirs. Voilà, mais c'est voilà. Donc il y avait cette volonté de taper le système aussi, je pense, et qui était un peu surjoué.
C'est un ressort très facile.
Faire venir les médias après pour faire une déclaration, enfin nous-mêmes qui sommes journalistes, on voit bien à quoi, enfin les ressorts de tout ça, ça montre une volonté de mettre en scène cette confrontation avec Gilles Boulot.
C'est pas la Pravda, pardonnez-moi, mais c'est la seule chose, c'est qu'on est un peu, on est un peu surpris de savoir.
Puis il y avait quelque chose d'un peu puéril à dire je ne suis plus le polémiste, je ne suis plus le journaliste, je suis le candidat. Il
ne
suffit pas de le dire.
Ça, c'est quelque chose de très étrange parce que dans une vie passée où je travaillais pour des politiques, il y avait une règle, c'est qu'on ne communiquait pas sur la communication. Et
absolument.
Là, c'est très étrange. Il y a quelques semaines, on le voyait, il commentait lui-même les propres sondages dont il était l'objet. Et ça, pareil, les politiques, par le passé, jamais... Enfin, ils regardaient tous, ils étaient obsédés par les sondages, mais jamais ils n'en parlaient. Et donc, Éric Zemmour expliquait, je prends plutôt chez les bourgeois, un peu moins chez les classes populaires, les prolétaires... Enfin, les politiques parlent comme ça. Et de la même manière, expliquer qu'effectivement, maintenant, vous ne me parlez plus comme un journaliste ou un polémiste, mais considérez-moi comme un candidat. Effectivement, normalement, le candidat, il montre qu'il est candidat, il doit le démontrer. Et ça, c'est à lui de le montrer.
On fait une petite pause, on se retrouve dans un instant. On continuera un instant sur Éric Zemmour, on parlera des Républicains, avec un taux de participation de 52,8%, je crois, à 18h, pour ce vote qui déterminera donc le candidat ou la candidate. Et puis, on parlera aussi de Covid. À tout de suite.
Punchline sur Europe 1, Laurence Ferrari.
On se retrouve dans Punchline avec Françoise Laborde, Jeannette Beaugrabe et Louis de Ragnel. On évoque toujours la candidature d'Éric Zemmour, qui était donc au 20h de TF1, qui va faire le meeting de Villepinte donc, dès dimanche prochain. Est-ce qu'il y a une question sur l'obtention des parrainages pour vous, Louis de Ragnel? Est-ce qu'il va y avoir un véritable obstacle ou pas?
Pour l'instant, je pense que c'est un peu tôt, parce que le déclencheur, c'est est-ce que réellement sa candidature prend après Villepinte, donc après dimanche prochain. On sait que jusqu'à aujourd'hui, il y avait des réticences de maires qui ne voulaient pas s'engager en fait en prenant le risque d'apporter leur parrainage à quelqu'un qui finalement ne se présente pas. Donc je pense qu'il est un peu tôt, on verra surtout au mois de janvier, parce que c'est à ce moment-là où les maires commencent un tout petit peu à se lancer, pourquoi pas, dans une nouvelle aventure.
Ce serait normal qu'il ait ses parrainages, Jeannette Beaugrabe, ses 500 signatures?
Je pense que ça dépend. Les maires ont une responsabilité. Et puis que je trouve que c'est vrai que les dernières... Ce qui s'est passé à Marseille, les maires sont en phase de leurs électeurs, sont sur le terrain, ils ont des comptes à rendre. Enfin, il n'y a pas que les maires qui peuvent donner un parrainage. Et donc, je pense que rien n'est jamais acquis et qu'il faut se... Voilà. Non, je pense que ce n'est pas parce que c'est Éric Zemmour, ce n'est pas parce qu'il a 11 ou 12% que nécessairement on doit lui donner...
Pas bien sûr. François Laborde ?
Oh, moi, je pense qu'il doit avoir les parrainages, parce que même si, en effet, on est extrêmement critique sur son entrée en campagne et sur le fond, je veux dire, la démocratie n'a rien à gagner à considérer qu'on ne peut pas y aller parce qu'on manque de parrainage.
La règle constitutionnelle, c'était de faire en sorte qu'il n'y ait pas une multitude, en fait, de candidats. Donc là,
mais on sait aujourd'hui que si on manque de parrainage, c'est parce qu'il y a une nouvelle règle qui oblige les maires à faire état, à rendre public les candidats qu'ils soutiennent, et qu'il y a un certain nombre de maires qui n'osent pas afficher leur soutien.
C'est normal, ils ont des comptes à rendre.
Je ne sais pas si
c'est... Ça s'appelle le principe de transparence.
Je ne sais pas si la transparence en la matière est une alliée puissante de la démocratie. Je crains que les appareils politiques ne prennent la main à ce moment-là.
Les maires sont indépendants. Beaucoup de maires sont élus sans étiquette.
Vous avez raison, Jeannette Beaugrabe. Mais moi, je trouve d'abord que c'est le moins mauvais système qu'on ait pu trouver. Je ne trouve pas que le système soit bon. Mais le principe des 500 parrainages, bon, bah, c'est comme ça. Je ne sais pas ce qu'il y avait de mieux. En tout cas, beaucoup de constitutionnalistes ont réfléchi au sujet et personne n'a trouvé vraiment de meilleure idée. Ensuite, il y a quand même un nouveau phénomène, c'est que de plus en plus de maires, même des petits maires sans étiquette, de petites communes, veulent surtout pas donner leur parrainage, mais à personne, en fait. Parce que maintenant, il y a quand même des logiques d'imbrication entre les communes, des communautés de communes, des agglomérations, et certains maires se disent, bon, si je soutiens tel ou tel candidat, et ça concerne pas qu'Éric Zemmour, ils se disent, bah, je prends le risque...
Si je donne mon parrainage, on pensera que je soutiens que tel
ou tel candidat.
Ou
alors, je risque de déplaire au maire de la grande commune d'à côté, qui, lui, s'occupe de n'importe quoi de la gestion de la propreté.
Et mes administrés peuvent me le reprocher.
Voilà, et donc, ça va m'embêter, on va me mettre des bâtons dans les roues sur d'autres dossiers. Et donc la nouvelle tendance, c'est quand même que les maires sont beaucoup plus réticents à donner leur parrainage.
D'abandon. Ils ont le sentiment d'être seuls face au problème. Donc il y a vraiment une distance qui s'est installée entre le centre et la périphérie. Et je pense qu'il fait que, en fait, les seules élections qui mobilisent, c'est les élections municipales et la présidentielle, parce qu'il y a un rapport interpersonnel. Eux, ils gèrent au quotidien, ils gèrent les choses au quotidien. Ils n'ont pas envie de se mêler de politiques politiciennes qui, quelque part, ne les concernent pas.
Et pendant ce temps-là, les Républicains choisissent leur candidat et leur candidate. Le vote a démarré ce matin à 8h. Un taux de participation, on le disait, 52,8%. Alors, on ne peut pas mesurer ça à l'échelle de, c'est quoi, 648 000 électeurs. C'est un bon
la moitié,
score.
Un peu plus de la moitié.
Donc, non, c'est plutôt bien ou pas?
Honnêtement, c'est plutôt pas... première chose, on sait que tous les gens aujourd'hui qui sont à jour de cotisation LR pour voter, il faut vraiment le vouloir. Hein. Enfin, c'est-à-dire qu'on n'est pas adhérent LR par hasard. En ce moment, c'était quand même une période où les LR n'avaient pas vraiment le vent en poupe. Donc moi, je pense que la participation in fine sera bonne. Il y a des gens qui n'ont pas pu voter aujourd'hui parce qu'ils travaillaient, ils rentrent chez eux le soir... Et ils voteront, et c'est ouvert jusqu'à demain 14h. Et je pense que la participation sera assez bonne.
On saura très vite à 14h la tendance. Hein.
C'est même pas une tendance, en fait. On aura.
Oui,
d'ailleurs, c'est quelque chose de très déstabilisant pour les candidats, c'est assez intéressant. Habituellement, un candidat, quand il se présente à une élection, il a des bureaux de vote test, on lui fait des remontées. Il y a des militants qui vont chercher des bulletins de vote dans les poubelles pour voir si on a quels sont les bulletins qui ressortent le plus dans la poubelle. On regarde les paquets qui montent et qui descendent sur les bureaux des assesseurs. Et là, pour le coup, il n'y a aucun indicateur. Donc, c'est le flou total pour tous les candidats, donc extrêmement déstabilisant. Et il n'y a même pas des indicateurs qui permettent aux candidate d'imaginer un score. En fait, comment ça va se passer? Il va y avoir des huissiers et puis tout d'un coup, il y a un qui viennent avec deux clés électroniques, voilà. Chiffrées, sécurisées, et tout d'un coup, il y a un chiffre qui apparaît avec le résultat. Donc, c'est extrêmement brutal, en fait. Et c'est vrai que c'est quelque chose de nouveau pour ces politiques qui sont habituées à un processus beaucoup plus lent.
Il n'y aura pas de campagne entre les deux tours, vu qu'ils sont distants de
quelques
heures
à peine. Absolument, c'était volontaire, c'était une stratégie.
Mais est-ce qu'il y aura forcément un second tour? Parce que s'il y a un écart...
Vous êtes audacieuse, vous êtes joueuse, parieuse, alors.
Oui, mais s'il y a un écart extrêmement important avec un premier qui est vraiment très haut et un second qui est un peu... très, très distancié, est-ce qu'il n'y a pas l'envie d'avoir du panache et de dire, eh bien, finalement, je me retire au profit de celui qui arrive...
La règle est
non, il y aura forcément un second tour. Je ne sais pas.
Non, mais je
c'est pas une question.
Ce serait très vertueux et très louable. Enfin, je vois que vous avez des belles idées. mais compte tenu, si vous voulez, de l'engagement que ça représente pour les candidats, ils ont tout donné. Je pense notamment à deux d'entre eux, Xavier Bertrand et Valérie Pécresse. Il ne faut pas oublier quand même, ils sont en campagne depuis 3 ans. Ils ont enchaîné campagne régionale qui était pour les deux assez compliquée. Ils ont fini par gagner. Ensuite, ils enchaînent sur une primaire. Enfin, avant, ils étaient tous les deux candidats, chacun dans leur camp. Puis une primaire, puis ensuite va démarrer la campagne présidentielle. Et je trouve que c'est quelque chose d'assez nouveau. C'est qu'avant, on voyait tous des candidats qui arrivaient fatigués, même quand il est le soir de leur élection. Mais là, ils vont arriver mais complètement sur les rotules. Non, mais c'est un paramètre à prendre en compte. C'est quelque chose d'assez nouveau.
Gianni Bogram, c'est intéressant ce flou total. On ne sait pas du tout le nom, les deux noms qui sortiront du chapeau demain. Hein.
Mais enfin, ce que l'on sait, c'est aussi le nombre d'adhérents par fédération. Voilà. Aujourd'hui, je crois, pour avoir lu, je crois, la plus grosse fédération, c'est la Fédération d'Île-de-France. Voilà. Je crois que la deuxième, ça va être PACA. Peut-être qu'une surprise, je n'ai pas dit qu'il gagnerait, c'est le score d'Éric Ciotti, voilà, qui a plutôt fait une belle campagne qui, sur ces sujets. Il n'avait rien à perdre, parce qu'il n'était pas dans les... Il n'est pas en tête, etc. Donc, ça va être sans doute celui qui sera peut-être le faiseur de roi au sein des Républicains. Donc, la seule chose qu'on peut voir, c'est effectivement où sont les adhérents. Voilà. Et est-ce que les adhérents vont suivre les consignes de vote ? Mm-hmm. Il y a eu la tribune, en réalité, de d'élus qui ont appelé à voter pour Valérie Pécresse. Donc, est-ce que ça va être déterminant sur le scrutin que certains... plusieurs centaines d'élus, voilà. Mais je crois qu'on ne sait pas, voilà. C'est ça qui est assez frustrant. Voilà.
C'est la première fois qu'on est à ce point-là sans capteur, en fait.
Aucun capteur. Rien, les candidats. Non, mais souvent, d'ailleurs, les gens qu'on voit dans la rue nous disent « Mais alors, toi, tu dois savoir. » Mais en fait, non, on ne sait réellement pas. Et d'ailleurs, pour les auditeurs qui nous écoutent, on ne sait réellement pas. C'est la surprise totale.
Ce qu'on sait peut-être, c'est la dynamique qui sera enclenchée à partir du moment où le candidat ou la candidate sera désigné. Là, il y a de quoi quand même faire bouger un peu les lignes et peut-être faire progresser le niveau des Républicains dans les sondages.
Tout dépend qui sort du chapeau, en fait. Hein. Si c'est la ligne plus droitière d'Éric Ciotti, je pense que ça peut être une mauvaise nouvelle pour Éric Zemmour. Ils sont quand même très proches. Et puis, si le candidat LR continue de progresser, alors aujourd'hui, il se situe entre 10 et 15%. Si le candidat LR monte assez haut, bien Éric Zemmour, pour le coup, il n'aura plus de problème avec Marine Le Pen, mais va en avoir avec les Républicains. Et la tenaille, en fait, change de camp. Jusqu'à aujourd'hui, la tenaille qui était exercée sur les Républicains, c'était entre Emmanuel Macron et Éric Zemmour. Si c'est Éric Ciotti, ça peut être une pas forcément une bonne nouvelle. Et puis si c'est Xavier Bertrand, Michel Barnier ou Valérie Pécresse, eh bien là pour le coup le match va plutôt se jouer de l'autre côté avec plutôt Emmanuel Macron, mais qui honnêtement, quand on va à l'Élysée, quand on discute avec son entourage, pour l'instant est plutôt serein, quel que soit le candidat désigné, parce qu'il se dit, voilà, si c'est Éric Ciotti, c'est une ligne qui est quand même très franche, très en rupture par rapport à sa propre politique, et si c'est Xavier Bertrand, Michel Barnier ou Valérie Pécresse, eh bien, en fait, il se dit que c'est plus facile pour lui, même si Valérie Pécresse est une femme. Mais voilà, il se dit qu'il est rodé, qu'il a plutôt de l'expérience, il a géré des crises.
Jeannette Bougrat,
il n'y a pas de rupture. La différence avec les autres primaires, c'est que les uns et les autres, en réalité, ont été très respectueux. En réalité, ce qui fait la différence, c'est qu'il n'y a pas eu de, comme ça a été pour la primaire de 2017, de mots ou d'actes qui ont fait qu'il y a eu des ruptures qui étaient définitive et irréversible. On a le sentiment, en réalité, à l'issue de cette primaire, que ça va être une équipe. Et je pense que ce sera sans doute la force, en réalité, des Républicains. C'est qu'en fait, ça rassurera qu'il y a Éric Ciotti, ça va rassurer qu'il y a plutôt que Valérie ou Xavier, c'est plutôt des centres-droits, ou Michel Barnier avec une stature internationale. En fait, c'est ce qui fera sans doute sa force, parce qu'il va rassembler, en réalité, en fait, une espèce de... Ils vont rassembler. Et je pense que ce qui fait la différence, parce que ça va être... sans doute une personnification un peu moins importante et une présidentialisation moins importante. Et je pense que la réponse, par exemple, la non-réponse d'Éric Zemmour, qui sera votre Premier ministre, c'est pas le moment, et ben je pense que ce qui va sortir en réalité de ces urnes-là, ce sera sans doute un binôme, en fait, un binôme avec le président et le futur Premier ministre, et ce qui va sans doute un peu changer la donne.
Allez, on fait une petite pause, on se retrouve dans un instant. On parlera peut-être de Covid, tiens, pour se changer les idées. Olivier Véran qui s'oppose à l'obligation vaccinale que l'Union européenne semble un tout petit peu favoriser ces derniers jours. A tout de suite dans Punchline.
Europe 1, Punchline, Laurence Ferrari.
Et dans Punchline, on est avec Jeannette Bougrat, Françoise Laborde et Louis Dragnel d'Europe 1. On va évoquer la question de l'obligation vaccinale, car la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a posé la question. Elle dit, il faut que les États s'en emparent, il faut que le débat s'engage. Réponse immédiate du ministre de la Santé, Olivier Véran, écoutez.
L'obligation vaccinale n'est pas le choix que la France a fait, pour différentes raisons. D'abord, qu'allons-nous dire à une personne âgée chez elle qui ne s'est pas fait vacciner ? Est-ce qu'on va mettre un régime d'amende ? Est-ce que c'est... Enfin, qui dit obligation dit contrôle et sanction. Donc la faisabilité n'est pas évidente. Nous avons fait le choix, nous, du pass sanitaire, qui a été un incitatif puissant, et nous faisons le choix de multiplier toutes les opérations d'aller vers. Cette semaine, c'est 52 millions de Français qui ont reçu une première injection, c'est-à-dire plus de 90% de la population vaccinable qui est vaccinée. Bien sûr, je souhaite ardemment que ceux qui n'ont pas encore fait cette démarche de se faire vacciner le fassent, et sans obligation, si possible, évidemment, mais avec des incitations qui sont très fortes.
Olivier Véran, qui refuse l'obligation vaccinale, est-ce qu'il a raison, Louis de Ragnel ? De toute façon, ce n'est pas la position de la France et d'Emmanuel Macron. Hein.
C'est sûr.
Bah si. De refuser l'obligation vaccinale ?
Oui,
c'est ça. c'est la position, pardon, c'est là pour le coup, il y a une vraie constance.
Enfin, il refuse l'obligation vaccinale.
Non, mais il y a deux sujets. Le premier sujet, c'est nous, on fait ce qu'on veut. c'est pas la Commission européenne qui va décider ce que la France doit faire.
Et ça, c'est on refuse l'obligation vaccinale.
C'est un principe. Oui, voilà.
Voilà,
les Français sont réfractaires à l'obligation vaccinale. Et en fait, voilà, c'est le pari du gouvernement d'inciter très fortement, de rendre la vie quand même extrêmement compliquée pour les gens qui ne sont pas vaccinés.
De fait, elle est là.
Et son objectif, c'est il y a un pari politique d'Emmanuel Macron qui est surtout d'essayer de passer entre les gouttes de toutes ces vagues, ces variants et tout ça, de ne pas reconfiner, de ne pas rétablir de couvre-feu et de ne pas imposer la vaccination, tout en essayant de faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de gens qui soient vaccinés.
Françoise Laborde.
Moi, je trouve que dans les faits, elle est là, l'obligation vaccinale, à partir du moment où on explique en effet qu'on ne peut pas sortir si on n'a pas sa troisième dose, à partir du moment où on ne peut pas voyager si on n'a pas des tests en permanence. De fait, il y a une obligation vaccinale. Alors, bon, qu'elle ne soit pas écrite dans le texte, peut-être que quand on est très européen, à un moment donné, on tient compte aussi de ce qu'ont fait les partenaires. Je ne peux pas m'empêcher de penser, quand j'entends le ton comme ça, péremptoire de Véran, qui dit « Non, non, il n'en est pas question », j'ai dans l'oreille la possibilité qu'ils disent exactement le contraire dans quelques temps, parce qu'on a été habitué à des changements de pied de cet ordre. Donc voilà, je pense que la Commission européenne est dans son rôle quand elle dit qu'il faut...
Elle n'a pas compétence.
Mais
non,
elle suggère. Et après, elle dit les États membres sont
censés... son rôle et que c'est bien qu'elle le fasse, à partir du moment où on considère en effet que le vaccin, le plus grand nombre de vaccins permet d'éviter les variants et de contrôler à peu près la contamination. Voilà.
Moi, ça me choque que la présidente de la Commission européenne vienne imposer, en fait, en matière d'obligation vaccinale, alors qu'elle n'a aucune compétence, à imposer, en fait, ou de dire aux États ce qu'ils doivent faire en la matière. Qu'il y ait une coordination entre des ministres, je suis d'accord, mais je trouve que ça, c'est un peu le problème de l'Europe. C'est que là, il y a 15 jours, on voyait l'impuissance de l'Europe avec les frontières migratoires et laisser la Pologne face seule à l'utilisation d'êtres humains pour déstabiliser l'Europe avec de la part de la Biélorussie. On a vu des migrants se noyer dans la Manche avec l'incapacité à pouvoir dialoguer ensemble. Et puis là, tout d'un coup, hop, c'est parti. Donc moi, je trouve ça... Enfin, presque insupportable. Là. Je trouve que c'est un problème avec la Commission européenne.
Ouais. Louis Ragnel, l'épidémie, à quel moment est-ce qu'elle va peser sur la campagne électorale? Elle pèse déjà sur la campagne électorale qui commence. Elle sera omniprésente parce qu'on nous annonce un pic de contamination en janvier. Donc, on sera très, très proche de l'échéance.
Mais si ça se maintient comme nous, notre vie, nous la vivons depuis un an et demi, deux ans, bien ce sera omniprésent, avec quand même l'acceptation sociale qui est de plus en plus faible. Les gens, globalement, en ont ras-le-bol. On vous explique que vous allez prendre une troisième dose, il y aura peut-être une quatrième, une cinquième. Et forcément, les politiques, les oppositions, les candidats à la présidentielle vont essayer de tacler Emmanuel Macron là-dessus. Et ça va prendre une dimension qui est très différente de ce qu'on connaît dans le débat politique jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que maintenant, ça va devenir un enjeu de présidentiel, effectivement. C'est pour ça aussi qu'Olivier Véran, je pense que le fond de son propos, c'est la peur panique de susciter de la colère. Mmh. C'est la question de l'acceptation sociale. Et là, en disant ce qu'il vient de dire... au moins, voilà, si vous voulez, ça ne fait pas exploser de colère les gens. Mais voilà, je pense qu'effectivement, la question sera omniprésente. D'autant plus que si, pour le coup, il y a des nouveaux variants, si ça explose, s'il y a des mesures de restriction de liberté, de confinement, de couvre-feu, là, pour le coup, ça risque de très mal se passer. Mais croisons les doigts déjà pour que le virus disparaisse avant la présidentielle.
Et Gabriel Attal a déjà dit que, quoi qu'il arrive, l'élection présidentielle se tiendra. C'est-à-dire qu'il y a quand même...
Il n'y aura pas de report comme pour les élections.
Voilà, ça, quand heureusement, même, à flotter à un moment.
Franchement,
de la...
heureusement, on nous explique qu'il faut vivre avec le virus.
Donc, il faut voter.
Il ne faut pas qu'il y ait je pense qu'il ne faut pas bousculer l'élection présidentielle à cause de ce foutu virus.
Je disais sur la question de l'obligation vaccinale, le gouvernement ne peut pas tenir un autre discours parce que, on l'a vu, la question des Antilles n'est pas réglée, en fait. Donc, de faire imposer juste l'obligation vaccinale pour les personnels soignants, pour le moment, la réponse qui a été donnée par le ministre, c'est d'envoyer davantage de forces de l'ordre aux Antilles. Donc, donc, du coup, c'est quand même assez difficile de...
Ils ont une proposition concernant le vaccin. en leur proposant de les vacciner avec autre chose que l'ARN de différer en décembre, de ne pas imposer d'ARN messager dans les vaccins, et ceux qui ne veulent pas être vaccinés, de pouvoir se changer de métier avec une formation rémunérée. Donc, il y a eu quand même des
avancées.
Majesté, on doit faire ça pour l'ensemble des millions de
mais
de
c'est
Français,
sûr qu'on doit faire ça pour tous les départements français qui n'ont
pas envie. Ça
n'a
pas fait beaucoup baisser la tension sur place.
Non. Mais ce qui est vrai, c'est que le fait d'annoncer quand même qu'il y aurait des tests pour ceux qui voyagent et pour ceux qui rentrent en France, que ce soit de l'Union européenne ou des pays hors Union européenne, c'est un élément qui compte. Là encore, ce qui n'est pas très clair, c'est que ce qui serait bien, c'est que les tests soient faits avant que les gens montent dans l'avion. Parce que si c'est fait à l'arrivée, ça ne marchera pas à tous les coups.
Normalement, mais, c'est une obligation pour les compagnies aériennes et pour les États, les plateformes aéroportuaires.
Absolument.
Oui. Mais il suffit de faire une escale quand on vient de Johannesburg à Amsterdam pour ne pas être contrôlé quand on arrive en France. Donc il y a toute la question... Ouais, évidemment, des contrôles à l'arrivée.
La question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il n'y a pas une dramatisation ? Mais je ne dis pas ça, parce que d'après l'OMS, si j'ai bien lu, c'est que le nouveau variant, les symptômes seraient quand même moins lourds que les autres variants. Et donc, on se dit, est-ce que c'est... Parce que je suis toujours assez surprise de
l'emballement.
De l'emballement et de la facilité à restreindre les libertés publiques. Depuis quelque temps, l'état d'urgence sanitaire, ça commence à faire un peu long. Alors, je me dis que peut-être, en pleine campagne, c'est peut-être aussi pas très... Voilà. Je pense qu'il faut être prudent. Ouais.
On joue avec la démocratie, Françoise Laborde ?
Je crois qu'on joue surtout parce qu'on n'a pas de vision et je ne suis pas sûre qu'on joue avec la démocratie. C'est très compliqué de savoir où mettre le curseur dans une affaire aussi compliquée que la santé publique. Donc oui, évidemment, on impose des restrictions et d'un pays à l'autre, les restrictions ne sont pas les mêmes. Je ne parle même pas de la capacité de la Chine à imposer des restrictions, mais on l'a bien vu en Europe. On a vu ce qui s'est passé en Espagne par rapport à ce qui se passe en France.
L'Autriche est confinée, l'Allemagne va vers l'obligation vaccinale.
Absolument. Donc je pense que en France, on a quand même la capacité d'accepter. La difficulté aujourd'hui, c'est que comme on a le sentiment qu'on navigue à vue et qu'on change de cap, en permanence, il y a ce côté exaspération parce qu'il faut mettre le masque, il ne faut pas le mettre, on le met en extérieur, ça sert à quelque chose ou pas. Je suis assez d'accord avec vous, Jeannette, sur l'idée que dès qu'il y a un nouveau variant, on s'affole avant même de savoir si en effet ce variant est plus méchant ou pas. On était très inquiets quand il y a eu le variant Delta, et on s'est rendu compte
qui est toujours omniprésent,
qui est toujours là, et on s'est rendu compte qu'au fond les vaccins fonctionnaient aussi pour le variant Delta, donc peut-être que ça sera la même chose pour Omicron et puis les enfants de Omicron.
C'est que je trouve que, enfin, ce que je critique, et c'est une critique très ferme, c'est que je trouve qu'il y a une facilité à restreindre et à imposer des restrictions de liberté aux individus plutôt que donner des moyens, notamment à l'hôpital. Et ce que je trouve critiquable et inacceptable, et peut-être à la fin, et ce sera sans doute le temps de la campagne présidentielle, c'est demander des comptes sur les suppressions de l'IDREA, y compris pendant la pandémie. Je suis désolée.
Oui, bien sûr.
Et donc là-dessus, pour gérer la pénurie et le manque de moyens de l'hôpital, on restreint les libertés publiques. C'est inacceptable.
Louis Dragnel.
Mais je suis entièrement d'accord avec vous. D'autant plus que la variable, à chaque fois, l'indicateur qui est pris en compte par le gouvernement, c'est vraiment ça. C'est plus tellement le taux d'incidence.
Oui, c'est
l'IDREA. Parce qu'avec la vaccination qui augmente globalement, on peut pas comparer le taux d'incidence il y a un an et demi et aujourd'hui, puisque la résistance n'est pas la même, par cœur. Ensuite, moi, il y a quelque chose qui me sidère, c'est le mimétisme qu'il y a entre les pays. C'est-à-dire que vous voyez 5 pays de l'Union européenne qui se mettent à confiner, restreindre les libertés, et en fait, il y a une peur panique de se dire, on va peut-être pas résister, on va peut-être pas être les seuls à résister, du coup, on va faire un peu comme les autres, mais à la manière française, donc on essaie de passer entre les gouttes. Non, mais il y a un peu de ça, et puis il y a cette angoisse, et là, pour le coup, la campagne présidentielle a un lien avec les mesures qui sont prises très rapidement, cette espèce d'angoisse de se dire, dans 6 mois, s'il y a une commission d'enquête, on nous reproche de ne pas avoir pris les bonnes mesures, le fameux principe de précaution qui maintenant est devenu...
sacro-saint
et pris vraiment avec excès. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, je me souviens très bien, vendredi matin, moi, je discutais avec un ministre et tout d'un coup, le gouvernement décide de suspendre les liaisons aériennes avec l'Afrique australe. Et il m'expliquait, voilà, il y a une peur panique.
Bon, merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à Punchline. Jeannette Bougrat, François Laborde et Louis de Ragnel. Dans un instant, c'est Mouloud Achour pour Verveine Underground. Et tout de suite, avant, il y aura Alexandre Lemaire pour les infos. Bonne soirée sur Europe 1. À demain.
Europe 1, 18h-20h.
Punchline, Laurence Ferrari.